Bonjour à tous et merci d'être là. C'est un étrange décalage que nous allons vous proposer aujourd'hui, puisque normalement nous avons un médiateur et là nous allons être nos propres médiateurs. Je vous présente Charles Stepanov, qui est un éminent spécialiste du chamanisme sibérien. Et voilà comment ça va se passer. Je vais faire une première partie sur la transe, telle que je l'ai vue et pour ce que j'en sais. Je n'ai jamais senti. Je n'ai jamais eu accès à la transe, je n'ai jamais voulu y avoir accès. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi, je pourrais l'expliquer, mais en tout cas, je ne l'ai pas voulu. Ensuite, Charles Stepanov vous parlera de ce qui est sans doute une mythologie, la transe des chamans, la transe chamanistique, et nous mettra les choses en place. Et puis, en dernière partie, je parlerai de ce que j'ai vu et de ce que je sais de l'extase, de la même manière, c'est-à-dire d'une façon rationaliste. Je ne suis pas spiritualiste. La première transe que j'ai vue, au sens propre du terme, était une transe qui s'est soufie dans un sanctuaire soufi du XIIIe siècle, qui est en plein dans un quartier pauvre, pour ne pas dire un bidonville, de New Delhi, enfin de Delhi plutôt que New Delhi. C'est quand même du côté de la ville ancienne. Et c'est une petite cité cernée par des murailles, dans laquelle extrêmement populeuse, pleine de réfugiés du Bangladesh, de réfugiés afghans. Le saint que l'on révère dans cette cité s'appelait Nizamuddin, c'était un très grand poète. Dans cette cité, on trouve une petite mosquée, un petit cimetière, un grand tombeau, une soupe populaire, une petite maîtressa et un petit hôpital avec des cures chamanistiques, et tout ça dans un espace grand comme trois fois cet espace-là, enfin un espace assez restreint quand même. Ce qui est le plus grand, c'est la tombe du saint, les femmes étant collées, la main collée sur le marbre qui entoure la tombe. Et là, j'ai vu de très nombreux vendredis des hommes tombés en transe, pas les femmes, des hommes tombés en transe assis en tailleur, et le buste simplement tournoyant. Le buste tournoyant et les yeux révulsés. En arrière. La tête légèrement en arrière, pas très très en arrière, pas très cambrée, mais simplement le buste. Et puis ça avait l'air d'être très agréable. Enfin, ça avait l'air d'être tourné manège, quelque chose de ce type. Et ce qui était le plus curieux, alors il ne tombait pas en transe sans un accompagnement. Je ne dirais certainement pas une stimulation, mais enfin ça faisait partie du spectacle, car quand même une transe c'est spectaculaire. C'est tous les vendredis, les chanteurs kawali, qui sont aussi bons que les chanteurs kawali du Pakistan, qui sont de très grands chanteurs, chantaient les chants lyriques du poète, enterré là, et les chantaient à pleine voix, avec accompagnement de percussions. Rien d'autre que percussions et voix. Mais à pleine voix, hein. Et puis, les mêmes qui étaient en transe, tournant, du torse tournoyant, étaient capables de se lever d'un seul coup sur leurs jambes, et puis en sautant ou en sautillant, d'arroser les musiciens de billets de banque, de leur jeter comme ça, enfin comme une sorte de pluie. Ça me faisait penser à la pluie d'or pénétrant Danaï. C'était quelque chose de c'est ça que ça m'a évoqué en tout cas. Et j'ai vu ça alors là très souvent pendant des années et des années. Alors ça c'est une transe d'homme et c'est une transe soufie, donc musulmane. Mais en fait ça, vous allez voir que ça a peu d'importance. La troisième transe que j'ai vue de très près, ça, alors là, sur une cérémonie qui a duré 11 jours et 11 nuits, donc là, j'ai eu le temps de voir quand même, et qui comportait deux heures quotidiennes de transe pour toute la cérémonie. C'est une cérémonie thérapeutique propre au peuple Lébou. Les Lébou, c'est un petit peuple de 90 000 personnes, qui étaient les premiers habitants de Dakar avant que Dakar soit colonisé, avant que Dakar devienne Dakar. C'est Federp qui a fondé Dakar. Les Lébou étaient les pêcheurs qui vivaient là. Ce sont restés des pêcheurs. Et ils ont inventé cette cérémonie thérapeutique qui, à mon avis, est d'invention tardive parce qu'elle comporte des points de rencontre avec des rituels chrétiens. Et ça s'appelle, d'un nom imprononçable, le Ndup. On dit aussi quelquefois le Ndup. Et ça s'écrit N'D, E dans l'eau, U, P. Et alors, ce que, pendant les deux heures de transe, le principe de ces transes sont des transes de possession. Ce sont massivement des femmes, encore que le premier neup que j'ai vu était un neup pour guérir un tout jeune homme, légèrement androgyne, adolescent, prépubère, enfin quelque chose de, pas déterminé sexuellement encore visiblement, parce qu'il n'avait pas d'orientation sexuelle très précise, c'est peut-être pour ça qu'il était là d'ailleurs. Et le thérapeute que j'ai vu ce jour-là était un vieillard qui a été filmé par Andreas Zampleni. Andreas Zampleni, un anthropologue qui travaille, qui a longtemps travaillé, qui est lié à ce musée, qui travaillait au musée de l'homme et qui quand il l'avait filmé dans les années 50, il l'avait filmé costumé en femme, avec une espèce de tutu rose et un casque colonial sur la tête. L'homme que j'ai vu était un vieillard boubou qui dirigeait la transe. Il était très très vieux, il est mort quelques semaines plus tard. Et en général, ou bien on est en femme, ou bien on est femme. Ces femmes ont pour mission de calmer les génies qui, dans ce cas précis, s'appellent les RAB, R-A-B. Et les trans de possession sont honorer son rab ou ses rab, parce que généralement il y en a cinq, chaque personne est possédée par 5 ou 6 rab ou 7 ou 8, ça peut aller très loin, et il faut chaque fois incarner la figure du génie. Alors ce que je vous passe le détail de la cérémonie elle-même, qui comporte d'innombrables sacrifices animaux, enfin dans le grand neuf de 11 jours que j'ai vu, nous avons immolé 2 taureaux, 10 boucs, autant de béliers et je ne sais pas combien de coqs. Mais bon, ça c'est la partie technique, disons, la partie bricolage. Dans les séances de transe, il y a 5 ou 6 figures qui sont toujours les mêmes et dans lesquelles ces femmes ou ces androgynes s'incarnent. Et ce sont c'est un caméléon, il y a un rap caméléon. Et à ce moment-là, la femme qui est sur le sable reproduit la démarche du caméléon, le serpent. Et la femme qui est sur le sable, a les mains attachées dans le dos, s'attache les mains dans le dos et rampe de façon extrêmement rapide. Le piroguier, et puis cette figure que j'adore, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est moins d'une dizaine. Cette figure que j'adore, qui est le soldat français qui fume et qui est complètement ivre. Ce sont des femmes, et ce sont des femmes musulmanes, pratiquantes, qui, à chaque soir, une bénédiction à Allah, et ça se passe sous la bénédiction d'Allah, toujours. Hein. C'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas tellement d'importance, que l'origine de la religion a assez peu d'importance, en l'occurrence. Le personnage de Jean, soldat français ivre-mort, on le retrouve dans plein de coins d'Afrique. Hein. C'est une figure qu'on retrouve dans plein de trans, et c'est une jolie façon de se laisser posséder par la figure coloniale, disons. Disons ça comme ça. Ce qui m'a paru le plus intéressant donc j'ai vu je ne sais combien de femmes comme Léon, je ne sais combien de femmes piroguières, serpentes, et quelques gens. Quelques gens qui, quand même, sous trans, sont autorisés, boivent de l'alcool, du vrai. On donne pas, c'est pas de l'eau qu'on donne, hein, c'est du vrai alcool. Ce qui m'a paru très, très intéressant, parce que j'ai vu la même chose dans les messes publiques, puisqu'il y a au Sénégal 10% de chrétiens, et qu'il y a très souvent des grandes messes en public. Et chaque fois qu'il y a une messe en public, s'il y a assez de monde pour ça, comme dans le public qui est autour, qui regarde la cérémonie qui s'appelle le Ndeup, il y avait 1000 personnes pour regarder les trans, hein, 1000 personnes, les trans de cette cérémonie Ndeup, 1000 personnes avec des gradins. Donc, c'est vraiment comme les bouffes du Nord, hein, ou c'est vraiment comme ici. C'est vraiment fait pour être vu. C'était barriéré par la police, et le maire adjoint de Dakar assistait tous les jours à la cérémonie. Donc, c'est pour dire que c'est tout à tout ce qui c'est pas du tout un rituel clandestin, ni qui demande la clandestinité. Or, dans les deux cas, que ce soit dans la messe publique, ou que ce soit dans le public, dans le millier d'Africains qui étaient là, il y avait très très peu d'Européens. On était à peu près, je ne sais pas, 3-4, enfin, vraiment très peu. Il y avait chaque jour une dizaine de trans sauvages. Une trans sauvage, c'est simplement quelqu'un qui se met à hurler de toutes ses forces en agitant les bras. C'est une crise de nerfs, appelons ça une crise de nerfs. Hein. Bon, appelons ça comme ça. Quelqu'un qui perd la tête. Et dans les deux cas, il y avait un service d'ordre qui prend la jeune fille, généralement c'était des très jeunes filles, et qui l'expulse et la met. Alors, quand c'était dans la cérémonie que j'appellerais chamanistique, si vous voulez bien, Charles, excusez-moi, on l'emmenait dans un lieu secret, auquel même moi j'ai pas eu accès. Et quand c'était dans la messe publique, eh bien c'était des brancardiers de la Croix-Rouge et on les emmenait sous une tente de la Croix-Rouge. C'est quasi pareil. Pas tout à fait quand même, parce que j'ai quand même su ce qui se passait pour une des possédées. Parce qu'un jour, il y a eu un vrai drame. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui était vraiment grave. La cuisinière de la prêtresse en chef était une femme qui venait du Mali. Elle s'est laissée posséder. Et elle s'est incarnée. En général, les incarnations de génie étaient rythmées par des percussionnistes qui sont de vrais artistes. Il y avait là une vingtaine de tambours et le chef des tambourinaires était le frère de Youssoundour, l'un des frères aînés de Youssoundour. Donc ce sont des gens qui savent, qui connaissent bien les rythmes. Chaque génie a son rythme. Donc la transe, elle va se chercher, la prêtresse qui veut aller en transe va dans le creux des percussions. Je ne dis pas que les percussions déclenchent la transe, hein, pas du tout. Mais enfin, c'est une sorte de nid matriciel. Elle va là, elle se laisse entourer par les percussions et les percussionnistes finissent par trouver son rythme, le rythme du génie. Et à ce moment-là, elle se transfigure. Et puis la cuisinière est possédée, et puis les tambourinaires essayent tous les rythmes. Et puis, il ne se passe rien. La fille, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, était possédée en transe, roulait des yeux exorbités, appelait au secours, essayait de se sortir de là. Personne ne savait par quoi elle était possédée. C'est évident, c'était un génie du Mali. C'était pas un génie de Dakar. Donc, personne ne connaissait cet oiseau-là qui était venu se fourrer dans ce cercle sans avoir demandé la permission. Quand d'un seul coup, le fameux frère aîné de Youssoundour a eu l'idée, il l'a observé, il a quitté son tambour, il est allé dans le centre de l'arène, moi j'étais sur le bord, seule blanche. Hein. Il lui a dit, viens là, lion. Il lui a dit ça en lébou, hein. pas en wolof, en lébou. Viens là, lion. Et elle s'est avancée doucement, et elle a commencé à rugir. Et au moment où elle est passée devant moi, en bonne lionne qu'elle était, elle a commencé à me sauter dessus, évidemment. Hein, ça, c'est fort. C'était parfaitement interprétable immédiatement. Donc le génie qui possédait cette femme était en effet un lion ou une lionne, ça on ne le sait pas exactement, mais je sais ce qu'on a fait à cette femme quand elle est allée dans la salle des soins. On lui a donné de la viande de bœuf rouge crue. Et c'est comme ça qu'elle est sortie de sa transe. Donc on voit bien quand même que les gens de la Croix-Rouge qui donnent de l'eau oxygénée, ou bien de l'éther, ou bien ce qu'on veut pour calmer les crises de nerfs, font à peu près la même chose que les prêtresses qui soignent en donnant, en l'occurrence, là c'était une innovation, il a bien fallu trouver quelque chose à donner au lion. Qu'est-ce qu'on donne à manger à un lion en transe? Eh bien de la viande crue. Je n'ai pas su ce qu'on faisait pour les autres, les caméléons, je sais ce qu'on fait pour Jean, c'est de l'alcool, parce que ça c'est public, mais je n'ai pas su comment les autres sortaient de transe. C'était extrêmement frappant. J'ai interviewé cette femme, j'ai interviewé toutes ces femmes le lendemain de leur transe. Sur 11 jours quand même, il y avait chaque fois deux prêtresses qui avaient interdiction de tomber en transe, pour surveiller les autres, pour empêcher qu'il y ait des accidents, pour, comme l'a dit très joliment l'une d'elles, empêcher qu'on voit tous les intérieurs, c'est-à-dire si par hasard les jupes se retroussent, hein, il faut rabattre, il faut que ce soit pudique, on est possédé mais on est pudique. Et ça, c'était par roulement, par rotation. Donc le lendemain, celle qui n'était pas de service se mettait en transe à son tour. Donc je les ai toutes vues le lendemain. Et elles m'ont toutes fait la même réponse, une réponse peut-être stéréotypée, mais je ne le crois pas, puisque la cuisinière qui avait été lionne la veille n'avait plus de voix, tellement elle avait rugi. Elle m'a dit, c'est absolument comme si je sortais d'un bain chaud. Je suis reposée, je suis fraîche. C'est comme si j'avais pris des vacances. Et c'est ça qui m'a paru le plus significatif. Je pense que la transe, dans tous les cas, c'est toujours une façon de s'échapper de la vie. Ce sont des vacances de la vie. Ça, tout ça se passe, les bous sont pas des gens riches, tout ça se passe dans la Médina ou dans des petits villages sur la côte dakaroise, et ce sont des populations très, 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 enfin, qui sont certainement en dessous du seuil de pauvreté, qui vivent de ce qu'on appelle pudiquement au Sénégal, oui, en Afrique en général, le travail informel, c'est-à-dire le travail des brimborions de travail piqués ici ou là. Et évidemment, cette grande fête avait aussi comme conséquence de nourrir énormément de gens, et de façon substantielle, si vous voulez bien vous souvenir de la masse de bêtes qu'on a abattues. Ça a toujours aussi la fonction d'un abattoir. J'ai vu ça également au pays d'Ogon, où les trans et pays d'Ogon sont très différentes. Alors, je vous ai raconté une trans soufie en Inde, des trans africaines. Je voudrais maintenant vous parler de chez nous. Et j'ai pris un phénomène qui est peut-être pas le plus récent, mais qui est assez récent dans notre histoire, et qui est un phénomène que je ne sais pas s'il est si connu que ça. On connaît très bien les possédés de Loudun, mais on connaît moins bien les convulsionnaires jansénistes de Saint-Médard. Phénomène qui dure quand même de 1679 à 1832, ce qui quand même est assez loin, et qui a eu des conséquences politiques importantes. Alors, les convulsionnaires jansénistes, ça commence dès que Port-Royal des Champs est attaqué. Port-Royal des Champs est la grande abbaye janséniste à l'époque. Le jansénisme se rapproche du protestantisme. En tout cas, c'est la grâce. On a la grâce ou on ne l'a pas. Quand on a la grâce, on peut tout faire. Je résume très, très, très schématiquement des siècles de théologie. Toujours est-il qu'en 1679, comme l'Église catholique s'en inquiète, les pensionnaires et les novices de Port-Royal sont dispersés. Et il y a déjà des convulsions, des trans et des miracles. Parmi les gens qui sont réfugiés là, qui ont des petites maisons et qui font de la philosophie, il ne faut pas l'oublier, Blaise Pascal, qui est l'un de ceux qui étaient dans ce coup-là, disons-le. Hein. Et déjà à cette époque, on commence à dépecer le corps des messieurs de Port-Royal. On les dépèce dès qu'ils sont morts. Hein. On leur découpe. On l'a retrouvé comme ça au XXe siècle, une petite boîte comprenant le prépuce de Monsieur de Saint-Aignan. Donc, ça va loin. Le découpage va très vite et très loin. Et on en fait des reliques. La première bulle condamnant le Jansénius est de 1705. En 1710, le vieux roi Louis XIV, il meurt en 1715, donc il est vraiment très très vieux, rase Port-Royal des Champs, ce qui est quand même une mesure extraordinairement, c'est vraiment très 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 fort comme mesure régalienne. On rase l'abbaye entièrement, on disperse le cadavre des cimetières et on les rapatrie à Paris en morceaux. Le morcellement dans cette histoire compte beaucoup. En 1713, deuxième bulle du pape, condamnant toujours le même mouvement. À cette époque, Paris est une ville entièrement janséniste. Être janséniste, c'est être contre le roi. C'est ça qu'il faut bien voir, c'est que j'ai pris cet exemple parce que j'aboutirai à la conclusion que toute transe est une vacance de la vie, mais également une révolte. Mais là, c'est parfaitement clair, puisque tout Paris est janséniste. Et tout Paris est contre Versailles. Versailles, c'est loin. Versailles, c'est le roi. Port-Royal des Champs a été rasé. Et la totalité des curés et du clergé et des fidèles de Paris est janséniste. C'est alors en 1713, l'année même où on rase Port-Royal, que naît, dans une famille de noblesse de robe ancienne, un jeune homme qui refuse le poste de magistrat auquel il aurait droit, et qui s'appelle François de Paris, et de Paris avec un chapeau sur le A, et il devient diacre en 1720, et il commence à mener une vie que ne renierait pas un yogi indien, un yogi indien, hindou ou tantrique. Jeûne, macération, convulsion, il porte tout, un travail vraiment de très, un très, très grand travail masochiste sur son corps. Et il est tisserand. Il n'a pas voulu accéder à la prêtrise, il n'a pas voulu avoir une cure, il n'a pas voulu monter dans la hiérarchie, et il meurt probablement de faim, probablement par la suite d'un jeûne trop long. Il meurt, il est enterré au cimetière de Saint-Médard, et c'est là que ça commence, mais tout de suite. Une vieille femme avec un bras paralysé touche l'arbre contre lequel son corps est disposé, on s'apprête à l'enterrer, et immédiatement elle se déparalyse. Et ça commence. Miracle, guérison, miracle, guérison. La famille horrifiée le fait enterrer pour de bon, et le fait enterrer sous une plaque de marbre noir soutenue par des petits piliers. Et là viennent convulsées des femmes, massivement des femmes, et quelquefois des androgynes, enfin bon, vous pouvez reprendre exactement le même type de discours, couchées sur la tombe du diacre Paris. Et chaque fois, il y a miracle et guérison. À cette époque, le cimetière de Saint-Médard était comme étaient les cimetières à l'époque. Il y avait des espèces de galeries. Donc, la noblesse, comme la noblesse de Paris s'était déplacée en masse pour aller voir les possédés de Loudun, la noblesse de Paris ou de Versailles, ou d'ailleurs, on vient voir les convulsionnaires de Saint-Médard. Jupe relevée jusqu'au menton. Hein. Donc, des petits commerces commencent à apparaître. On commence à vendre des culottes pour les possédés, enfin, pour les convulsionnaires, pardon. On vend aussi des rubans qu'on appelle les lisières pour les soutenir, des grosses lanières qu'on appelle les lisières. Et puis on commence à les secourir. Il y a des rapports hilarants d'une mouche, c'est-à-dire d'un policier qui a comme ça secouru une fille. Il était du côté des pieds et donc il décrit tout ce qu'il a vu. Enfin bon, il en fait une espèce de conte érotique. C'est absolument incroyable. Alors. Les guérisons sont particulièrement spectaculaires puisqu'elles ne produisent aucun effet thérapeutique. Aucun. C'est-à-dire que X est sourde et muette, elle vient convulser, elle sort de là, elle est sourde et muette, mais elle est guérie. Et etc. Mais ça a duré comme ça. C'est-à-dire que la convulsion est en elle-même, la convulsion qui est une convulsion alors du genre crise de nerfs, quand sauvage, enfin, de ce type-là, la convulsion est en elle-même la guérison. Et ça va très loin. Le cimetière de Saint-Médard est fermé en 1732 parce que, évidemment, ça a des connotations extrêmement érotiques. Et ça va. Les convulsionnaires entrent comme mouvement de petites sectes disséminées. Là, ça se passe dans toute la France. Alors, hein, ça essaime dans toute la France. Et les convulsionnaires entrent dans la clandestinité. Et le système des secours, c'est-à-dire qu'elle demande du secours. Hein. Elle demande des secours. Les secours peuvent être des secours meurtriers ou bien des grands secours. Je vais vous donner un exemple de secours. Ça va être pas facile à lire. Je vais quand même essayer. Les convulsionnaires ont laissé des archives, c'est-à-dire qu'ils ont chaque fois noté très précisément ce qu'ils faisaient. Et ils le font avec une volonté de... comment c'est qu'ils font? Ils remplissent un dossier de comment ça s'appelle quand on cherche à faire sanctifier quelqu'un, ils cherchent à remplir un dossier de béatification pour toutes les convulsionnaires. En voilà d'une don qui date du 20 septembre 1772. Elle a un abcès au sein. Très bien. Elle demande des secours. Le lendemain, elle se larde le sein de 63 coups de stylet. L'abcès et trois glandes aux aisselles se dégrisent toutes seules. Le 22 septembre 1772, elle enfonce de 60 lignes, ça c'est la mesure, le stylet dans le sein malade. Le 23, avec un rasoir, elle se fait une croix au sein, la plaie se referme aussitôt, très peu de sang. Elle se fait asséner 143 coups de pelle, foulés aux pieds, ça veut dire qu'on lui marche dessus. Le 26, elle se perce le sein en croix avec le stylet et le mamelon de la profondeur de 6 lignes. Le 28, elle se donne 121 coups assez profonds de stylet dans le sein, puis 132 dans le sein malade, puis 1000 coups de pelle. Le 29, 103 coups de stylet. Le 30, elle se donne 48 coups de ciseaux dans le sein malade et beaucoup de sang sort de l'abcès. Le 1er octobre, 196 coups de gros ciseaux avec la plus grande rapidité sur le sein. Sur le 2, elle se larde le 2. Octobre donc, elle se larde les deux avant-bras avec le stylet, coup de bâton sur le dos et les reins, se fait piquer tout le corps avec le stylet, etc., etc. Et il y en a des pages et des pages et des pages et des pages. Il y a des dossiers, incroyables. Et on est évidemment dans le domaine de ce que n'importe quel psychiatre appellerait le masochisme. Je ne sais pas si on emploie encore le mot aujourd'hui, mais enfin, c'est ce qu'on l'employait en tout cas dans la nosographie classique. Et ces convulsionnaires finissent évidemment par mourir. Elle meurt pas tout de suite, mais elle meurt. Le mythe de ces trans convulsionnaires, c'est que ça ne fait pas mal et que les corps sont invulnérables. Et quand la malade meurt ou quand le sang coule, eh bien c'est la guérison. Ça s'appelle la guérison. Il y a aussi des convulsions qui font tomber en enfance. Et il y a ces sectes abominables ont mis en transe et fait convulser des enfants de 15 à 18 mois. Hein, ça a été très loin. Alors voilà, par exemple, dans un petit mouvement sectaire, toujours dans la clandestinité, il y en a un qui se fait appeler papa. Ça, c'est vraiment le modèle de toute secte actuelle. Enfin, un qui se fait appeler papa. Et voici ce que dit Madelon, sœur Madelon, fille de chambre. Mon papa veut pétrir mon petit frère. Mon papa, toi, veux donc le faire entrer dans le bercail. Il a une grosse, 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 grande croix. Mon papa m'a dit que cet enfant deviendra une petite bête. Je dispense de l'interprétation. Elle vient toute seule. Et comme dans les mouvements charismatiques, on y parle des langues inconnues, quelquefois ce sont des langues qui viennent des boyaux. Très souvent, ce sont des cris d'animaux et encore plus souvent, des aboiements. Sur les aboiements, les Américains avaient observé que quand, au comble de la sonorité des discours de Hitler, quand les micros étaient poussés à fond et quand il était en train de hurler, à ce moment-là, dans les foules à Nuremberg et ailleurs, ne criaient pas. Les hommes jappaient ou aboyaient. Ça a été enregistré, ça a été attesté. Et c'est pour ça que ces aboiements sont si intéressants. Et ça finit naturellement, enfin, ça finit pour beaucoup d'elles par la mort qui s'appelle la grande convulsion. Il y en a une qui se fait percer de 17 coups d'épée contre le mur. Elle demande que ce soit vraiment les épées qui s'enfoncent jusqu'au bout. Elle est clouée au mur et elle meurt en disant « Voici venue enfin la grande convulsion ». Très bien. Tout ceci s'accompagne de prophéties révolutionnaires. C'est-à-dire que très tôt, comme on est contre Versailles, on est contre le roi, on prophétise que la révolution viendra. On prophétise que la tête du roi tombera. C'est-à-dire que ce mouvement sectaire, extrêmement mouvementé, extrêmement mystique, extrêmement masochiste, tous ces mots étant de pris dans des champs différents, ont quand même comme résultat de s'attaquer à la famille royale de façon extrêmement importante. Et les convulsionnaires seront ceux qui signeront en masse, et notamment l'abbé Grégoire était dans ces gens-là, hein, et ceux qui signeront en masse le nouveau statut des prêtres pendant la Révolution française. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette... Il faut vraiment que je m'arrête, ça vous n'aurez plus de place, Charles. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ces trois séries d'exemples? En tout cas, chez les convulsionnaires, il y a énormément de sexe. Le sexe béni, sexe devenu intouchable, sexe divinisé, mais il y a énormément de sexe. Il y a des transgressions considérables. Il n'y a pas que les transgressions de tuer. Il y a le fait que vers 1800-1810, les femmes se transforment en prêtres et disent la messe et donnent la communion. Les convulsionnaires, celles qui ne sont pas mortes, donnent la communion. Donc il y a de la révolte, il y a du changement d'espèce, puisqu'on peut passer de la voix humaine à l'aboiement, il y a un changement de genre, car dans de nombreuses trans, aussi bien soufis que les trans des prêtresses que j'ai décrites tout à l'heure, dans le Ndeup, quand on passe en Jean, quand une fille se transforme en Jean, elle change de genre, et il y a une pause dans le temps social. Parce que quand même, ça se passe généralement la nuit pour ce qui est des trans convulsionnaires, et ça dure quelque chose comme 12 heures. Mais c'est une pause. Et j'appellerais ça, si c'est une pause dans le temps social, je serais tenté de dire que c'est un accès à ce que Bergson appellerait la durée. Et il y a toujours une visée thérapeutique, surtout quand, comme dans le cas des convulsionnaires, il n'y a aucune guérison à l'appui. C'est quand même très impressionnant de voir dans toutes les fiches des convulsionnaires qu'il y a le symptôme, il y a la convulsion, il y a les grands secours, appelés secours meurtriers, et puis il y a à la fin la malade est guérie parce qu'elle meurt, ou la malade est guérie parce qu'elle reste exactement dans le même état. C'est donc quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ah, ça s'est passé à Paris, et ça a duré plus d'un siècle. Donc, en cherchant, je trouverai certainement d'autres mouvements de transe parisiens plus récents, mais celui-là est tout à fait spectaculaire, et il est assez peu connu. Voilà, j'ai terminé ma première partie. Je vous ai dit que je vous dirais ce que je savais, ce que j'avais vu. J'ai pas vu de convulsionnaire, j'ai vu quand même l'arc hystérique, et j'ai vu des caméléons. Maintenant, Charles Stepanov va nous démystifier la transe chamanistique.
Bonsoir, messieurs, dames. Alors, je vais prolonger ces récits sur la transe. Je prendrai un point de vue un peu différent, alors celui d'une anthropologie qui concerne un cas particulier. Je ne prétends pas que ce que je vais vous présenter puisse concerner tous les phénomènes de transe, d'extase à travers le monde. C'est le cas de la Sibérie. Il est intéressant parce que les notions en fait de transe, mais aussi d'extase, lui ont été appliquées. Elles se sont même développées en partant de faits ethnographiques originaires de cette région, avec l'ouvrage célèbre et très influent de Mircea Eliade, qui s'appelait « Le chamanisme ou les techniques archaïques de l'extase ». Alors, je vous présenterai quelques-uns des débats que suggèrent ces notions dans la recherche anthropologique actuelle et également des pratiques contemporaines et un petit peu plus anciennes aussi, du début du XXe siècle en Sibérie, telles que moi j'ai pu les observer et qu'elles ont été, pour les plus anciennes, observées, collectées par des ethnologues locaux. Donc le chamanisme a été associé à la transe et l'extase par Eliade, je disais. Pour Eliade, il n'y a pas de solution de continuité dans l'histoire de la mystique. Les rituels des chamans sont en parenté génétique avec l'expérience mystique chrétienne et la métaphysique indienne. Et pour lui, dans le chamanisme, c'est le voyage extatique, c'est-à-dire ce moment où, d'après les chants, les actions du chaman, son âme est supposée quitter son corps pour entreprendre un voyage cosmique à travers les mondes. Alors c'était pour Eliade cet élément-là qui était fondamental et archaïque, car proche des techniques mystiques des cultures anciennes. Le chaman apparaissait donc comme un professionnel de l'extase. Alors, on a pu faire des enquêtes de terrain plus approfondies, surtout à partir de la période post-soviétique, à partir de la chute de l'URSS. Il y a eu un renouvellement important de la recherche sur le chamanisme en Sibérie, avec l'ouverture de cette région. Et des débats donc sont apparus sur les questions de transe, d'extase. Il y a un article de Robert Tamayon qui s'intitule « Pour en finir avec la transe et l'extase dans l'étude du chamanisme ». Voilà, tout est dit dans ce titre, c'est assez polémique. Alors pourquoi ce rejet de ces notions ? Il apparaît que les notions de transe et d'extase, tout d'abord, premier problème, elles n'ont pas d'équivalent dans les langues sibériennes. Ce sont des notions de notre société et on n'arrive pas à voir comment elles pourraient être traduites dans le langage des chamans et des personnes qui assistent aux rituels qu'ils mènent. Donc comment les rituels sont désignés ? Eh bien, dans la langue que moi j'ai étudiée, le Tuva, une langue turque, c'est un terme dérivé du mot chaman, c'est ce qui est fait par le chaman, ce que fabrique le chaman, ou bien, comme ils ont des tambours, le fait de tambouriner. Très souvent, ce sont des verbes comme sauter, jouer, tomber. Voilà les termes indigènes qui décrivent les actions, les postures, les états que l'on a tendance, nous, à traduire, à décrire par transe ou extase. Ce sont transe et extase, donc, sont liés à notre perception des phénomènes. Ils peuvent avoir comme défaut de mettre l'accent sur des états psychologiques intérieurs du chaman qui pourraient faire oublier que les conduites qu'elles désignent ne sont signifiantes que lorsqu'elles reproduisent des modèles culturellement établis. Lorsque le chaman accomplit des actions rituelles attendues de lui, son entourage n'y voit pas l'indice d'une extase intime, mais l'indice d'une relation avec des esprits. C'est un point constant, alors que les perceptions, les usages, les réinventions occidentales du chamanisme se focalisent sur une expérience interne et privée qui vise le développement personnel, la quête de soi. En Sibérie, dans les pratiques, le rituel est avant tout une expérience relationnelle et collective. Relationnelle, puisqu'elle fait intervenir le chaman et une assistance, un malade. Il est au service, le chaman, de malades ou de chasseurs qui ont besoin de chance à la chasse. Mais aussi des participants invisibles, des esprits et des objets rituels, des figures d'esprit, des instruments de musique qui ont une très grande importance dans le schéma relationnel mis en place par le rituel qui oriente l'expérience vers l'extérieur. On n'est pas vers une expérience intérieure, mais beaucoup plus vers quelque chose d'extériorisé, de relationnel et de collectif. Il y a un moment dans la biographie d'un chaman sibérien particulièrement violent, une période de crise au cours de laquelle il présente des conduites déviantes, mais qui sont très polymorphes. Ça peut être des choses qu'on peut comparer à de l'hystérie, de l'épilepsie, assez souvent de l'épilepsie, mais aussi de la dépression ou une conduite asociale de crise en forêt. Pour Eliade, il s'agissait là d'une maladie initiation au cours de laquelle l'individu est choisi ou élu par les esprits. Il vivrait une sorte de mort mystique suivie d'une résurrection et d'une révélation des secrets du métier. La maladie et le rêve auraient pour but de transformer l'homme profane d'avant le choix en un technicien du sacré. Donc c'est l'interprétation d'Eliade, j'y insiste, parce qu'elle a eu une très grande importance dans la compréhension du chamanisme sibérien et dans les formes comprises les expériences de chamanisme occidental et d'une façon générale dans l'histoire des idées déjà de l'Occident. C'est un texte qui date de 1951. En fait, son interprétation, on ne peut pas imaginer qu'elle soit plus magistralement opposée aux conceptions des peuples de Sibérie. D'abord, sous bien des aspects, cette crise initiale, elle n'est pas une maladie. Elle s'oppose complètement à l'idée de maladie puisqu'elle est considérée comme une étape normale d'un développement nécessaire, alors qu'une maladie est un épisode contingent. Ensuite, cette crise chamanique, elle n'a rien d'initiatique. Aucun savoir occulte n'est révélé en rêve au futur chaman, à la différence des rêves d'autres spécialistes rituels comme les conteurs ou les forgerons. La mort n'est certes pas le but du rêve, du dépècement vécu en rêve par les chamans. Tout au long de leurs récits, les chamans sont supposés rester conscients au cours du rêve qu'ils font, où ils se voient disséqués par des esprits. Et c'est une expérience qui est faite encore par des chamans Hakas aujourd'hui. Ils doivent être conscients, ils doivent s'observer eux-mêmes disséqués, sans anesthésie, vous voyez. Et cette expérience est capitale puisque c'est celle qui les amène à se voir traités comme un homme, comme un corps mort, une expérience d'objectivation singulière qui sera augmentée dans les étapes rituelles qui suivent la crise. Le résultat de cette vision, attendue par tous, c'est l'authentification de la présence d'un os surnuméraire, un os supplémentaire dans le squelette du chaman, un os cherché par ses esprits ancestraux qui dépècent son corps. Pourquoi cet os? Parce que c'est cet os qui distingue le corps du chaman d'un corps ordinaire. Le réassemblage des membres qui a lieu ensuite n'est pas vraiment une résurrection. Il ne s'agit pas de faire d'un profane un chaman, une opération qui n'a pas de sens pour les peuples de Sibérie, les Turcs que j'ai étudiés, parce qu'on est chaman de naissance. Il s'agit plutôt de vérifier que le prétendant possède un corps doué des propriétés innées qui distinguent le chaman des gens simples. Et ceci me permet de faire le lien avec le cas qui était cité des convulsionnaires et de ces pratiques que l'on voit réapparaître dans beaucoup de traditions de possession, de transe, d'extase, qui consistent à imposer des mutilations, des souffrances au corps pour faire apparaître le corps comme invulnérable. C'est tout à fait important dans les pratiques des chamans de Sibérie, mais également d'Asie centrale. Et à vrai dire, le dernier chaman qu'on ait observé accomplissant ces pratiques de coups de couteau imposés à soi-même, eh bien, il a été observé chez les Kazakhs en Asie centrale. Donc, depuis le XVIIIe siècle, depuis le XVIe siècle, depuis qu'on a des descriptions de voyageurs ayant vu des chamans, on les voit avec des couteaux se les enfoncer dans la gorge ou dans le ventre, souvent autour du nombril. Il se trouve que les représentations indigènes des chamans, dans des figures métalliques ou en bois ou sur des pétroglyphes, elles nous montrent un corps avec un trou central. Effectivement, c'est que le corps du chaman est supposé être différent de celui des gens ordinaires, différent parce que il possède un squelette particulier, donc il y a cet os surnuméraire, mais aussi parce qu'il est pénétrable. C'est un corps ouvert, un corps spongieux, dans lequel les choses, les forces, les flux, les énergies peuvent pénétrer et circuler. Et c'est précisément ce que visent à montrer ces coups de couteau. Le chaman montre qu'il a un trou dans son ventre, qu'un couteau peut y passer réellement et sans causer de dommages. Et c'est là qu'on peut aussi voir une différence avec, malgré tout, les convulsionnaires, c'est qu'il ne faut pas mourir, il ne faut pas se blesser réellement. Précisément, le corps chamanique doit être invulnérable, doit être spongieux, laisser passer au travers, sans souffrance, les lames, parfois des sabres. Et c'est ainsi qu'il démontre son authenticité au public. Ça doit se faire avec le sourire. Il ne s'agit pas ici de souffrance imposée ou de masochisme, parce que ces pratiques-là, même si elles sont effectivement communes avec beaucoup d'autres, comme peut-être celle des convulsionnaires, eh bien elles s'insèrent dans un système de relations, de distribution des compétences, où le chaman a ses compétences propres, son corps propre, qui le distingue de façon innée des profanes. Ce qu'il a comme particularité aussi, c'est donc de laisser pénétrer en soi des forces, des esprits auxiliaires qui viendront parler par sa bouche, c'est aussi de se projeter lui-même dans plusieurs espaces. Donc un mouvement d'une part centripète, avec toutes sortes de forces qui pénètrent son corps et qui passent au travers, et un mouvement centrifuge, puisque des composantes de la personne peuvent se distribuer dans plusieurs espaces. Et ce qui est tout à fait important de signaler, c'est que cette expérience du chaman, elle doit prendre un sens collectif dans le rituel. Le chaman ne peut pas tomber par terre et rester immobile pendant une heure. Ça serait raté. Il serait disqualifié dans sa fonction de chaman. Il y a des moments où il tombe par terre, mais ça s'intègre à un scénario complexe où, à d'autres moments, le chaman est au contraire extrêmement actif, c'est la plupart du temps, hein. Un rituel chamanique, c'est extrêmement spectaculaire en Sibérie, extrêmement actif. Ça permet au public de suivre les actions que le chaman est censé mener dans des espaces lointains, dans le ciel ou sous la terre. Donc il va, par exemple, battre du tambour de cette manière, les bras levés pour ce qui est des yakouts, pour indiquer qu'il est en train de monter vers le ciel. Il pourra plutôt battre de cette manière au niveau du ventre pour indiquer qu'il va voyager dans le monde du milieu, c'est-à-dire parmi les montagnes environnantes. Et puis, pour montrer qu'il descend sous terre, je ne vais pas vous le faire totalement, c'est dangereux, mais il va plutôt battre du tambour comme ça, en bas, et même sauter à terre, en imitant le vol du plongeon, un oiseau qui plonge sous l'eau, comme son nom l'indique en français. Et c'est en s'inspirant du mouvement de cet oiseau qu'il montre qu'il descend sous terre. Et à ce moment-là, il s'allonge par terre, ce qui pour les gens n'est pas interprété comme une extase ou une transe, mais comme une étape de son voyage. Il est en train de descendre sous terre, mais ensuite il va se relever et l'action va continuer, une action dans laquelle l'élément central est le chant. Des chants extrêmement complexes, qu'on commence à comprendre un petit peu mieux maintenant, grâce notamment à nos collègues amazonistes, qui ont développé des techniques d'analyse tout à fait brillantes, et qui nous montrent que ces chants ont une prosodie particulière, ont des images particulières, ont une pragmatique, ont pour toutes sortes de techniques qui visent à produire un langage métamorphosé. La métamorphose du chaman, elle passe par une métamorphose du langage, par l'usage de cris, et par des jeux sur les pronoms, par des jeux sur les références à l'espace. Tout ça est très important parce qu'autrement, le public ne suivrait rien. Il est nécessaire, pour que le rituel réussisse, que les gens se sentent impliqués, à commencer par le patient, mais aussi l'entourage, que les gens puissent suivre ce qui se passe, dans un espace dédoublé, puisqu'on a d'une part l'espace du rituel où les gens se trouvent et l'espace où les actions du chaman sont supposées se jouer, ce décor qui est différent, qui est le ciel ou les enfers. On a un phénomène un peu d'ombre chinoise où les gens peuvent suivre l'action du chaman qui peut se battre, donner des coups de couteau contre des êtres que les gens ne voient pas. Mais que les actions du chaman dessinent en creux. Et puis, une action ainsi rendue visible comme dans un spectacle en ombre chinoise pour les gens ici et maintenant. Donc pour ça, il est nécessaire d'avoir tout un système de coordination entre les espaces, entre l'espace réel et l'espace virtuel qui sert donc de décor à l'action. Alors, je vous présenterai rapidement quelques-unes des techniques de coordination. Alors là, c'est un rituel qui a eu lieu chez les Touva, vous voyez, en 2006. Vous voyez le paysage et l'habitat. Il s'agissait d'un rituel de création d'un arbre chamanique par une chamane pour une famille, pour qu'elle ait un protecteur, pour faire face à une série de problèmes, de maladies. Donc d'abord, un mouton a été abattu. La chamane s'est ensuite à rassembler les personnes dans un endroit ouvert de la vallée, de la steppe, et fait des libations, vous voyez ici, adressées aux entités du paysage. Donc elle a établi une relation avec ces entités du paysage en accomplissant des tours sur elle-même, vous voyez, et des libations en même temps. Elle projette du lait vers les différentes montagnes. Ensuite, elle s'assied face au feu et elle appelle les esprits à venir. Elle est vers l'est. Les esprits bons viennent du côté du soleil levant. Plus tard, a lieu un rituel, cette fois dans la forêt, auprès de l'arbre du mélèze, qui a été identifié comme pouvant être le mélèze protecteur, précisément paitut, c'est-à-dire le riche mélèze qui va protéger la famille. Beaucoup de victuailles, là, des offrandes qui vont être brûlées dans le feu. Alors, elle commence par invoquer les esprits du monde environnant, les esprits de la nature qui est visible pour tout le monde. Ce sont les montagnes, les lacs. Et elle est, à ce moment-là, assise ou à genoux. Alors voici le chant.
Tilguin.
Vous entendez les participants qui répondent? Participation du public. À la limite, le cri du loup. Voilà. Alors, à ce niveau-là, vous voyez qu'elle est debout. Elle s'est adressée à des esprits célestes auxquels elle demande de faire venir un esprit princesse, une princesse du ciel, qui va s'installer dans l'arbre et qui va devenir l'esprit maître de cet arbre et sera un protecteur pour la famille. La famille elle-même va faire plusieurs tours autour de l'arbre pour bloquer le bonheur et bloquer l'esprit, et ensuite on y attache des rubans et on crée ainsi, au sens propre, le lien. Alors voici un bref extrait des paroles, des questions avec le public. Le bonheur de la santé est-il descendu? Il est descendu. Le bonheur du bétail s'est-il arrêté? Il est arrêté. Donc les gens doivent confirmer le succès du rituel en disant oui, ça a marché. Donc dans ce rituel, on a l'établissement d'une coordination entre les mouvements de la chamane et les entités auxquelles sont adressées les paroles. Elle est assise quand elle s'adresse aux esprits du monde du milieu, elle se lève quand elle s'adresse au ciel. En fait, si on examine son costume, on voit que la correspondance entre son schéma corporel et l'ordre du monde est inscrit matériellement. Vous avez en haut, sur sa coiffe, des plumes de rapace qui font le lien avec le ciel. Chez d'autres peuples de Sibérie, ce sont souvent des ramures de cerf. Le cerf étant considéré comme un animal céleste, hein, c'est l'origine des cerfs du Père Noël qui traversent le ciel. Donc les chamans ont des bois de cerf, animal céleste, ou de rapace sur la tête. Sur les omoplates, on trouve des iblines, des loups, des animaux qui font le rapport avec le monde du milieu, le monde de la forêt. Et plus bas, au niveau des jambes, des serpents qui lient cette partie basse du corps de la chamane avec le monde inférieur. Ça, c'est quelque chose qui est constant à travers tous les costumes, ou une grande partie des costumes, des peuples de Sibérie, d'établir ainsi une coordination assez stricte entre le schéma corporel du chaman et l'ordre du monde. Souvent, c'est même rendu encore plus visible, puisque le squelette du chaman apparaît représenté sur le costume, et certaines de ses parties sont la pomme d'Adam, le nombril, sont également représentants de trous permettant d'accéder à différents niveaux du monde. Le nombril est le lieu par lequel on accède au monde inférieur. La pomme d'Adam, le lieu par lequel on accède au monde supérieur. Je vais maintenant très rapidement évoquer un autre système de coordination entre espace virtuel, espace réel et corps du chaman. Alors il s'agit d'une tradition particulièrement brillante d'iconographie des dessins qui couvraient les tambours de nombreux chamans. Ici, ce sont les rakas. Alors, ces traditions ont totalement disparu puisque ça a été détruit à l'époque soviétique et le chamanisme donc a perduré de façon purement orale. Ici, il a perduré, mais dans la plupart des cas, il a disparu. Ici, donc, on voit différentes figures d'esprit. Vous voyez sur ce tambour à gauche avec des esprits liés au ciel, des cavaliers en haut, des oiseaux en bas, des batraciens, serpents, un ours, animal chthonien par excellence, puisqu'il vit l'hiver sous terre. Et puis, du côté gauche du tambour des individus noirs, qui représentent des garçons noirs, liés aux esprits maîtres de lieu, du monde du milieu, et à droite, des filles. Alors, c'est très complexe, très brièvement, ce que je veux montrer, c'est qu'il y a en fait un rapport d'équivalence entre le plan de ce tambour et le plan de la yourte Rakas. Oui, on peut retrouver une équivalence entre la position des garçons, des filles, qui sont dans la yourte, les garçons du côté droit, les filles du côté gauche, la disposition des représentations d'esprit dans une yourte. Je précise rapidement, la yourte, c'est donc l'habitat traditionnel des peuples turco-mongols. Ce qui fait que le tambour est en quelque sorte un plan de la présence des esprits dans la yourte, en même temps qu'un plan de l'ordre du monde, avec monde inférieur, monde du milieu, monde supérieur. Voilà. Ce tambour est porté par le chaman. Il y a un rapport extrêmement fort entre le chaman et son tambour. Ce sont des photos anciennes, donc antérieures à la période soviétique, puisque tout ça a été supprimé. Hop. Et vous voyez qu'il y a un moment au début des rituels où le chaman plonge la tête dans son tambour, il bat. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il interrompt la relation avec le public, le contact des yeux notamment, le regard, il n'y a plus de regard. Ça, c'est un phénomène constant dans les traditions chamaniques. On retrouve aussi en Amazonie, d'après les collègues, il est même interdit au public de croiser le regard du chaman pendant le rituel. Là, vous voyez, en Sibérie, c'est fait par cette plongée dans le tambour. On en a une photo. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le chaman s'imprègne il est enveloppé de sons, par les sons du tambour qui résonnent autour de sa tête, et il est enveloppé d'images aussi, puisque ce qu'il a sous les yeux, je ne sais pas si j'ai la photo, oui, eh bien, c'est quelque chose que j'ai découvert dans les musées, c'est que ses peaux sont transparentes et laisse voir au travers les images peintes du côté extérieur quand on est face à une source lumineuse, autrement dit exactement dans la situation du chaman qui au début du rituel est assis avec le tambour devant les yeux face au feu. De cette manière, il y a un rapport qui est créé entre son corps, sa gauche, sa droite. En fait, la disposition des figures correspond aussi à la gauche, la droite du corps du chaman, le plan de la yourte et le cosmos. Et tout ça va permettre au chaman de donner une signification à ses mouvements, au mouvement qu'il fait sur la gauche. Ça va être qu'il représente qu'il descend vers le monde inférieur. Quand il tourne sur sa droite, il monte vers le monde supérieur. Quand il s'approche de la porte de la yourte, c'est qu'il descend vers les enfers avec le patient, et il va ramener le patient de la porte vers le coin opposé à la porte. Ça représente le voyage cosmique du monde inférieur, des démons, vers le ciel, et ainsi représente la guérison du patient. Alors bref, c'est juste un petit aperçu pour vous montrer que les techniques chamaniques sont complexes. Elles ne se réduisent pas à un effet d'ivresse ou de prise de psychotropes. Les psychotropes sont mal vus. Ils sont évités totalement dans le chamanisme sibérien. Ils sont présents dans le chamanisme amazonien, mais on ne peut pas du tout réduire les traditions chamaniques avec leur champ extrêmement brillant et complexe aux effets des psychotropes. Il s'agit plutôt de modifier dans ces rituels les conditions même d'exercice du langage et de l'interaction, de produire une langue métamorphosée, porteuse d'identités complexes, visibles et invisibles, d'introduire des relations avec des objets, bref, d'ouvrir la personne vers l'extérieur. Et c'est cet aspect collectif, relationnel, de la transe et de l'extase sibérienne donc, que je voulais souligner.
Il n'y a aucun psychotrope du tout? Il n'y a même pas une absorption d'alcool?
Alors oui, il peut y avoir de l'alcool, du tabac, de la vodka.
Parce que la question des substances est quand même importante.
Hein. Oui. Des champignons aussi, la manite. Mais c'est considéré comme un adjuvant qui peut aider un débutant. Mais le chaman qui ensuite a suffisamment d'expérience s'en passera. Parce qu'il doit être, c'est l'élément très important du chamanisme sibérien en tout cas, hein, d'avoir une maîtrise sur soi-même, sur son corps, sur ses relations avec les esprits. Alors pourquoi ? C'est tout simplement parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le rapport avec les esprits est considéré comme quelque chose d'assez banal en Sibérie. Ça n'est pas réservé aux chamans, beaucoup de chasseurs, de gens, d'éleveurs... même en ville, racontent qu'ils ont fait des expériences de contact avec des esprits, qu'ils ont vu passer, ils ont été tourmentés, ou ils connaissent des gens, tout simplement, qui sont possédés par des esprits. Ça n'en fait pas des chamans, parce qu'ils ne savent pas comment réagir, ils sont pris par une frayeur atroce qui peut mener à la mort. On considère qu'une rencontre avec un esprit faite par quelqu'un qui n'a pas la maîtrise, eh bien, c'est dangereux et les récits abondent effectivement de chasseurs qui sont morts après une rencontre avec un esprit. Donc, c'est cette maîtrise qui fait le chaman plutôt que la relation avec l'esprit, la maîtrise de la relation.
Dites-moi si je me trompe avant, Mircea Eliade, ce sont bien des condamnés politiques russes qui ont étudié le chamanisme sibérien pour la première fois au XIXe siècle, c'est ça, hein ?
Oui, oui, Eliade travaille sur des documents de seconde main. Lui-même n'a pas fait d'ethnographie en Sibérie, bien qu'il en ait une masse très abondante sous la main. Et donc, il y a eu beaucoup de Polonais, par exemple, qui sont les fondateurs de l'ethnologie sibérienne. Qui étaient des exilés.
C'est ça, l'équivalent du goulag. Oui. Il y en a certains d'entre eux sont devenus les premiers ethnographes du chamanisme sibérien.
Oui, alors c'était quand même pas le goulag.
On va quand même pas louper un coche, s'il vous plaît, Charles. Voilà. On va dire que Mircea Eliade faisait partie de la garde roumaine, la garde de fer roumaine, c'est-à-dire que ça a été un militant fasciste important, comme Cioran. Donc c'est des choses qu'il faut quand même savoir, et c'est pas par hasard qu'il cherche à rapprocher la métaphysique indienne de tout ça. Hein. C'est un univers fascistoïde, tout ça. Je parle de la métaphysique indienne aussi. Hein. Je suis extrêmement sérieuse en disant cela. Je vais continuer sur l'extase, si vous voulez bien. Alors, je n'ai pas voulu entrer en transe, j'ai failli, hein. C'était le premier jour de ce grand dup, mais j'ai senti que ça montait par la jambe gauche, comme le dit Jean Rouch dans la plupart de ses films, c'est vraiment la jambe gauche, je suis gauchère en plus, et j'ai refusé absolument, j'ai fui, et j'ai réussi à convaincre mon persécuteur, parce qu'il y a un griot qui est spécialiste pour faire tomber les femmes en transe, il y a des grands tambours énormes, massifs, plus un petit tambour d'aisselle, qui a des sons extrêmement... aigres, aigus et qui vont dans les qui trépanent les oreilles et qui pourchassent les femmes pour les faire tomber en transe. Il s'approchait de moi et j'ai fait comme ça. Je lui ai dit, écoute, si tu me fais tomber en transe, tu me mets au chômage. Ah, ça l'a sidéré. Je lui ai dit, oui, écoute, je suis écrivain, donc je pourrais pas écrire. Ah bon ? Voilà. La même chose m'est arrivée avec... j'ai vécu en Inde 4 ans et demi. J'ai pris, pendant ces années-là, excepté le mois d'août, j'ai pris une leçon d'une heure de yoga tous les matins. Ça fait quand même un large champ d'expérience du yoga. J'avais comme professeur de yoga un éminent brahman auquel je tiens à rendre hommage, qui s'appelait Kulkarni, qui venait du Maharashtra, où sont de grandes écoles de yoga. Et puis, très vite, il s'est aperçu que je ne méditais pas. Comment est-ce qu'il s'est aperçu ? Au moment de la méditation, le yoga, il me fait faire les postures. Enfin bon, je ne suis pas là pour... C'est pas du tout, je ne veux pas vous parler du yoga, mais de la fin de la séance où je suis invité à méditer. Il ne met pas 3 jours à s'apercevoir que je ne médite pas parce que mes paupières bougent. L'œil, quand on ne médite pas, la poule sur la paupière gigote. Hein ? Il me dit, mais vous ne méditez pas ? Ah, je dis, mais non, je ne veux pas méditer. Comment ça, vous ne voulez pas méditer ? Mais vous ne voulez pas faire le vide dans votre esprit ? Eh bien, la même chose, je lui dis, mais vous voulez me mettre au chômage, si je fais le vide dans mon esprit, je ne pourrai plus écrire. Donc j'ai eu ces conversations-là de façon récurrente avec de très nombreux professionnels, disons, de la transe ou de l'extase, dont c'est le métier de faire tomber des gens en transe ou en extase, dont c'est le métier de faire... Il y avait beaucoup d'Occidentaux en Inde qui cherchaient à entrer en extase, qui cherchait l'extase, qu'il appelait bliss, d'ailleurs, c'est une façon de... Ce mot de bliss, qui est anglais, hein, a une sorte de signification particulière dans les communautés occidentales, et qui cherche à faire cette expérience. Moi, j'ai fait exactement le contraire. C'est engagé à ce moment-là, entre mon professeur et moi, une longue conversation d'une dizaine d'années à peu près, parce que je suis retourné le voir, où il m'apprenait les postures, c'est pas de problème, hein, c'était pas tant, et où je refusais toujours de méditer. Et donc, à la place, la méditation, eh bien, je lui parlais de Descartes, ou bien de ce qu'il voulait, il me demandait des choses sur Kant, etc. Ça s'est transformé en un échange de connaissances réciproques. C'est le seul homme que j'ai jamais vu en extase. C'est la seule fois où j'ai vu quelqu'un tomber en extase. Et encore, s'il ne me l'avait pas dit, je ne sais pas si je l'aurais pas... Ben, j'ai quand même constaté quelque chose de spécial. Où est-il tombé en extase? Il s'agit d'un brahman, donc de la caste supérieure, du Maharashtra, terre sacrée, terre importante pour les brahmanes, et de la religion hindoue, qui est séparée en castes. Eh bien, il est tombé en extase dans une mosquée. Dans une mosquée où je l'avais emmené, parce que comme la plupart, le tourisme indien n'était pas très développé à cette époque-là, le tourisme intérieur indien. Les Indiens étaient trop pauvres pour se payer des voyages. Puis l'enrichissement et le développement des classes moyennes développaient de façon massive le tourisme indien à l'heure actuelle. Mais là, on est dans les années 90, et j'emmène mon petit professeur, qui était un tout petit bonhomme, je l'emmène voir le Taj Mahal qu'il ne connaissait pas. Bien. En chemin, on s'arrête dans une ville qui s'appelle Fatehpur Sikri, dans laquelle il y a une mosquée très grande, très célèbre, en activité. Fatehpur Sikri est une ville déserte et vide, mais la mosquée, elle est très active, où il y a des chanteurs kawali, les mêmes que les chanteurs, même espèce que la mosquée soufie, et il se met devant les chanteurs kawali, et je le vois qui, en effet, dont les yeux se révulsent, ça dure pas longtemps, ça dure... quelques secondes, mais je vois en effet qu'il se passe quelque chose de son corps qui est totalement immobile. Et tout joyeux, il me dit, à la fin, ça y est, j'ai eu l'extase. J'ai dit, ça vous étonne pas de trouver l'extase dans une mosquée, vous qui êtes... Il me dit, ça n'a aucune importance. C'est pas le problème, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la bonne position du corps, la qualité de l'air qu'on respire, l'entourage musical et le rythme qui est impulsé par les chanteurs. Alors, les techniques de l'extase, j'ai été regardé un petit peu, pas dans Eliade. Il y a 35 ans, oui, avant qu'on sache, qu'on débusque Eliade comme fasciste, on était tous plongés dans sa vaste histoire des religions. Ça m'a beaucoup troublé, ce que vous disiez là. Mais j'ai été regardé ailleurs, dans des ouvrages en anglais. La plupart des techniques de l'extase ont toujours à la base la même méthode. Il s'agit de se couper le souffle. Dans le yoga, c'est la technique de la suspension de la respiration, mais vous trouvez exactement la même technique de suspension de respiration dans une méthode qui s'appelle la méthode hésicaste et qui est la méthode des prêtres orthodoxes. C'est une partie de la religion orthodoxe qui accède à l'extase en se coupant le souffle de façon très simple. Je ne vais pas le faire parce que je risquerais de me couper le souffle pour de bon, mais comme ça, c'est-à-dire en priant la tête sur les genoux, assis, en priant la tête sur les genoux. Si on reste suffisamment longtemps la tête sur les genoux, évidemment on manque d'oxygène. Si on suspend la respiration, c'est par multiple de 16 qu'on se bouche le nez comme ça, une narine, puis l'autre, par multiple de 16, puis par multiple de 32. Moi j'ai été jusqu'à 2-3 multiples de 32, suffisamment pour voir rouge, hein, au sens... ça peut se faire chez soi, mais ça n'est pas sans danger quand même, hein, parce que on peut réellement s'évanouir. En tout cas, on peut perdre conscience ou connaissance. Alors, dans le yoga, je fais exprès de le prendre par le bout le moins mystique possible, comme vous le voyez. Je le prends presque au niveau de l'évier ou du robinet. Enfin, je fais de façon très très matérielle. Dans le yoga, il y a quand même une donnée philosophique qui, là aussi, est commune à toutes les techniques de l'extase, c'est détruire l'ennemi public numéro un, le moi. Toutes les techniques de l'extase veulent détruire le moi. Donc il s'agit de couper le souffle et perdre la conscience. Dans le yoga, c'est pour se dissoudre dans l'infini, et il y a une très jolie mythologie, qui est la mythologie de la Kundalini, qui est une petite serpente, femme, hein, c'est pas un serpent, c'est une serpente, enroulé dans le sacrum et qui se dresse à travers la colonne vertébrale pour aller déclencher toc, l'extase dans le haut du cerveau. On en sait un peu plus. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un savoir. On a maintenant sur l'extase des données, parce qu'on va les appeler objectives. Moi, je les trouve idiotes, mais enfin bon. On a réussi à mettre des cathéters dans les artères de plusieurs moines qui sont entrés en méditation, et on a donc de l'imagerie cérébrale des personnes qui tombent en extase. Ça déplace des choses dans le cerveau. Le cerveau n'est plus de la même couleur à tel endroit ou tel endroit. Je suis bien incapable de vous dire quoi. Mais ça, je ne sais pas si ça donne une connaissance particulière. On apprend juste qu'il se passe quelque chose dans le cerveau, mais je pense que quand on réfléchit très profondément, si on mettait un cathéter dans un cerveau de philosophe en train d'écrire, il se passerait des phénomènes à peu près du même genre. Alors, je voudrais vous raconter, vous faire un tout petit catalogue extatique et vous raconter deux histoires, trois si j'ai le temps. La première histoire est celle de Ramakrishna. Elle est parfaitement, elle m'intéresse beaucoup parce que comme la petite bonne qui était venue se placer en sortant de la gare Montparnasse, Ramakrishna était un brahmane du Bengale, lui, d'une famille très pauvre et il était illettré. Alors, un brahmane illettré, ça, c'est quand même une particularité intéressante. Et sa première extase, et c'est également quelque chose qui est commun à tous les extatiques, et qui différencie totalement de la transe. Alors ça n'a plus rien à voir. Il l'a eu tout petit, il avait 7-8 ans, et il travaillait dans les rizières avec son père, hein, il était paysan, et il a vu d'un seul coup, c'est une image très traditionnelle en Inde, qui se trouve dans de très nombreuses miniatures, donc elle est répertoriée, mais il a été frappé par la beauté de ce qu'il voyait, c'était des grues blanches, un vol de grues blanches, sur un ciel d'orage très noir. On retrouve ça, où ce sont des canards, où ce sont des cygnes, ce sont des oiseaux blancs sur nuages très noirs. Et il est tombé. Il est tombé en extase devant la beauté. C'est ça aussi, le point commun, c'est que la beauté compte. Je ne sais pas si elle compte. Je crois que oui. Moi, je crois que la beauté compte dans le costume de la chamanesse. Ça compte énormément. C'est une certaine perception de la beauté ou de l'efficacité de la beauté. Bien, très bien. Ça lui arrive une fois, puis ça ne lui arrive plus. Puis on le marie à 10 ans ou 11 ans. Souvenez-vous que le Mahatma Gandhi s'est marié à 12 ans et que c'était tardif, 13 ans, pardon, et que sa femme avait 12 ans. Et c'est un mariage blanc, qu'on ne consommera jamais. Et il décide de devenir prêtre et il trouve un petit emploi dans un temple qui est magnifique, très grand, qui est dans les faubourgs de Calcutta, qui s'appelle le temple de Dakshineswar et qui existe toujours. Et là, il essaye tout pour retrouver cette extase première des grues blanches sur fond de ciel noir. Alors, il commence par être dévot du singe divin Hanuman, qui est le dieu à face de singe. Donc, il s'accroche une queue de singe au derrière. Ça marche pas. Il devient dévot de ce qu'on appelle en Inde Radha Krishna. Krishna, c'est le dieu. Adolescent, il a une maîtresse mariée qui est Radha. Mais il y a une espèce de bidule androgyne qui s'appelle Radha Krishna, les deux ensemble. Et il devient dévot de ça, et donc il s'habille en femme. Ça marche pas. Ça marche pas davantage. Il s'initie ensuite à l'érotique tantrique. Alors, c'est un grand frémissement quand on parle de l'érotique tantrique. Et il fait ça avec une maîtresse yogini, parce que ça se fait toujours avec, parce que l'érotique tantrique, l'accès à l'extase, passe par un certain type d'accouplement. C'est un accouplement sacré sur lequel il y a des kilomètres et des kilomètres de littérature. Le principe étant que la femme et l'homme s'accouplent et que chacun des deux retient son sperme, ce qui veut dire donc que dans cette conception, la femme a un sperme à elle, qui est quand même pas mal, hein, moi je trouve, en tout cas, ça me plaît assez. Et les deux font la même chose avec leur sperme, retiennent le sperme sans éjaculer, la femme comme l'homme, et le font remonter à travers la colonne vertébrale pour provoquer l'extase. C'est une très belle mythologie, tout à fait charmante, et que l'on trouve alors très développée dans toute la démonologie de la mystique tibétaine. Il trouve sa yogini, et puis quand arrive le moment de l'accouplement, et là c'est vraiment une scène que je trouve très, très, tout à fait formidable, et qui a été très bien, et que m'a raconté longuement Sudhir Kakar, qui a fait beaucoup d'études sur Ramakrishna. Il n'arrive pas à s'accoupler. Il ne bande pas, c'est mon expression. Donc, comme il n'y arrive absolument à rien, il saute dans le giron de la femme, qui est censée lui apprendre ça, et il s'endort. Il se blottit dans son sein, et il s'endort. Et c'est ça l'extase pour lui. Après, il deviendra un très grand extatique. On a des photos de Ramakrishna en extase. Il restait quelquefois 24 heures en extase. On a des photos de lui en extase, debout, avec le doigt levé comme ça. Il a des lèvres énormes, les yeux demi-révulsés. Il est campé, comme la reine d'Angleterre, hein, pendant son jubilé. Le poids bien réparti, parce qu'il quand même, il reste très très longtemps. Très très longtemps. Les photographies, il y en a beaucoup. Et ce sont des photos très impressionnantes. Et ce qui m'intéresse le plus, moi, dans Ramakrishna, c'est la façon dont il a déclenché. Donc, il a quand même fini par retrouver autre chose que le sommeil dans le giron de la maîtresse Yogini. Il était furieux, désespéré. Il est allé dans le temple de la déesse qu'il préférait entre toutes, et qui est une déesse représentée elle-même en transe, et qui est l'horrible déesse Kali. Donc vous connaissez certainement la description, c'est une déesse qui a les cheveux hérissés, qui a la langue tirée, qui a les yeux exorbités, c'est pour ça que je dis qu'elle est représentée en transe, qui est une déesse de la colère et de la guerre et de la férocité, qui a été conçue pour tuer des démons, donc elle est toujours féroce, elle a un collier de tête décapitée, elle a une jupette charmante en bras humain, et elle tient tous les instruments possibles de torture. La langue tirée est très importante, puisque la langue tirée, c'est un des signes de la transe qu'on retrouve chez les possédés de Loudun, chez les convulsionnaires, la langue tirée noire, épaisse, et comme celle de Kali. Il se plante devant la déesse Kali, l'engueule, cherche à se faire posséder, il cherche vraiment ça, et puis elle a une épée dans un de ses 8 bras, il prend l'épée, et c'est là que ça se passe. Brusquement, il est roulé dans les vagues, et lui raconte ça et décrit ça. Il décrit ça de façon absolument superbe. Lui, Ramakrishna, après, savoir si ça s'est vraiment passé, on n'en saura absolument jamais rien. L'extase, comme la transe, c'est quelque chose qu'on ne sait que ce qui est raconté, et il se dissout dans l'infinité d'un océan qui le roule, lui, grain de sable. Grain de sable, c'est ce que Romain Rolin appellera le sentiment océanique. Et c'est ça que Freud va refuser, mais alors de toutes ses forces. Les reproductions, quelque chose qui est de l'ordre de la photographie. Tout ce que les mystiques essayent de reproduire par écrit, quand ils racontent leurs extases, ont le même scénario et les mêmes métaphores. Les vagues, l'immensité, l'espace infini, le grain de sable dans l'univers, de plus en plus petit, jusqu'à être le mot le plus fréquent utilisé par une très grande mystique qui est Jeanne Guyon, au XVIIe siècle français, mariée, mère de famille, et une très grande mystique, qui est être rien, être et encore mieux que rien, être un rien, ce qui est encore mieux. Et c'est toujours un panel commun, c'est un langage universel. Il n'y a pas des extases dans tous les pays, mais là où il y en a, c'est bien le même vocabulaire et ce sont bien les mêmes mots qui sont utilisés. Puis il y a toujours deux choses. Une énorme consommation de sucre, une fois l'extase finie. Et c'est vrai que mon petit prof de yoga s'est précipité sur du sucre dès qu'il est sorti de la mosquée. Il a fallu que je le nourrisse. Ramakrishna mangeait d'énormes quantités de galettes sucrées. Et puis il y a toujours un Sancho Panza. Quand il y a un Don Quichotte mystique, il y a toujours son Sancho Panza à côté. Il y a un disciple préféré. Là, en l'occurrence, ce jour-là, c'était moi. Mais vous trouverez pas de mystique solitaire qui n'est son accompagnant. Ça, c'est très important. Celui de Ramakrishna s'appelait Vivekananda. C'est lui qui lui a succédé. Et c'est lui qui a fondé la secte qui s'appelle la Ramakrishna Mission, qui est d'ailleurs tout ce qu'il y a de plus honorable et qui est une secte de plutôt caritative. La deuxième histoire que je voudrais vous raconter ressemble beaucoup à celle-là, se passe au XVIIe siècle, sur toute la côte méditerranéenne et en Europe. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Sabbatai Zvi. Il est juif, il est grand, il est beau, il est rêveur. L'homme qui a écrit sa biographie, Gershom Scholem, qui est un immense philosophe, appelons-le philosophe juif, et même qui l'a écrit en Israël, il écrit ce livre en Israël, le pose tout de suite comme maniaco-dépressif, c'est-à-dire bipolaire. Donc, ça fausse tout de suite le jeu. En tout cas, cet homme avait des moments de dépression et des moments d'extase. Alors, dans les moments d'extase, il était exactement comme les autres. C'était la vague, l'infini, le rien, enfin, pas, tout à fait le même corpus. Sauf que, poussé par son accompagnant, qui était extrêmement doué, qui était un communicant, en somme c'est l'équivalent d'un communicant actuel pour un homme politique. Il s'est proclamé Messie en 1665, l'accompagnant a commencé à faire la collecte chez les juifs de la diaspora, à prédire l'Apocalypse. Ça a marché au-delà du possible, c'est-à-dire que les communautés juives de la diaspora en Europe ont envoyé des sommes et des sommes d'argent, commencé à vendre tous leurs biens pour être sur place à Smyrne, hein, à Smyrne où il officiait, quand allait se passer l'avènement du Messie, l'Apocalypse puis l'avènement du Messie. Donc il y a une somme d'argent, des sommes d'argent considérables qui ont été récoltées. Lui était un authentique mystique, et le jour où il s'est proclamé Messie, il a épousé la Torah. Donc on a pris les rouleaux et on les a habillés en mariés. Puis ensuite, il a épousé une prostituée, comme Ézéchiel. Parce que Ézéchiel a été conduit par Dieu à épouser une prostituée. Puis il en a épousé d'autres, plein. Puis ça faisait quand même du raffut dans l'Empire ottoman. Tous ces fonds qui arrivaient, ces juifs qui arrivaient. Il y avait plusieurs foyers d'agitation. Et il a été convoqué par le sultan. Je ne sais plus quel sultan, en revanche. Il a été convoqué par le sultan qui lui a donné le choix. Prendre le turban ou se faire décapiter. Prendre le turban, ça veut dire se convertir. Hein. Il a évidemment pris le turban. Et il a tout de suite, immédiatement, il a pris le turban. Et il a fondé un mouvement qui s'appelle le mouvement... a été fondé par l'accompagnant, un mouvement qui s'appelle le sabbatéisme. Le sabbatéisme, c'est l'équivalent des maranes. Musulmans d'apparence... juifs de cœur, musulmans d'apparence avec la pratique des rites juifs en secret. La pathologie qui a été stigmatisée par Gershon Scholem, il dit maniaco-dépressif. Mais maniaco-dépressif, on peut dire ça de tous les mystiques, sans exception. Dans le vocabulaire de Sainte Thérèse d'Avila, ça s'appelle la sécheresse. Dans le vocabulaire de la personne dont je vais vous raconter l'histoire maintenant, ça s'appelle aussi la sécheresse. C'est exactement la même chose. Le vocabulaire, là encore, est le même. En tout cas, les sabbatéens existent encore, et il se dit quelquefois, et ça je ne l'ai pas vérifié, que Atatürk aurait été un sabbatéen, ce qui n'est quand même pas une mince histoire, si on arrive à vérifier ça. Alors, tout ce corpus de sécheresse se retrouve donc dans Thérèse d'Avila, que je ne vais pas vous parler d'elle, mais d'une mystique du XXe siècle, qui est morte en 1918, et qui a passé 22 ans internée à la Salpêtrière. De son vrai nom, elle s'appelait Pauline Lerlamotte. Elle s'était surnommée elle-même Madeleine, comme la Sainte Madeleine, le bouc, comme le bouc émissaire. Et c'est une malade qui a été soignée pendant 22 ans, elle a été guérie à la fin de sa ménopause. À la fin de sa ménopause, le délire mystique, ce qui s'appelait alors le délire mystique, a disparu. Mais voilà, ça s'appelait délire mystique et elle était internée. Janet a tout observé de cette femme. Il a consacré deux volumes magnifiques à ce cas, comparé à d'autres. Il y a également Raymond Roussel qui se trouve également dans ces deux tomes que je vous recommande vivement et qui s'appelle « De l'angoisse à l'extase ». L'angoisse, c'est justement la période de sécheresse et les chemins pour arriver à l'extase sont tout à fait ceux que relate Sainte Thérèse d'Avila et qui sont les tentations, les solitudes, la dépression, l'enfer, la souffrance extrême. Et au bout de la souffrance extrême, exactement comme Ramakrishna en train de prendre l'épée de la déesse, paf, d'un seul coup, la jouissance. Janet a été jusqu'à constater, je me demande bien comment, que Pauline Lerlamotte avait des sécrétions vaginales au moment de ses extases mystiques. Donc comment il a fait? Forcément, il a été voir, hein, ou il a été touché. Donc il faut imaginer la scène, quand même, du psychologue, philosophe Pierre Janet, psychiatre également, comment il fait? Est-ce qu'il est là à genoux avec une loupe? Est-ce qu'il y met la main? Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, il le décrit, ça. Il décrit les sécrétions vaginales de sa patiente lorsqu'elle est en extase. Je vais quand même vous lire un des textes. Il était assez narquois. C'était un incroyant, bien entendu. Donc il était assez narquois de temps en temps avec cette femme qui, là aussi, il a pris beaucoup de notes. Donc tout ce qu'elle a dit, elle l'a consigné. Tout ce qu'elle a dit de ses extases, elle l'a consigné. Et voici le passage après lequel Pierre Janet est allé voir. « J'ai des douceurs énormes sur les lèvres et au ventre qui se resserre en des secousses vraiment divines. J'ai des frémissements de tout le corps quand Dieu applique partout ses mains brûlantes qu'il promène doucement. C'est indéfinissable. Je me sens de plus en plus soulevé en l'air. On dirait que tout mon corps porte sur une grosse corde passée entre les jambes et que cette corde comprime les parties qu'elle fait rentrer à l'intérieur. Il se fait un travail à la vessie. On pose un seau sur l'ouverture et cette gêne pour uriner n'est pas une souffrance mais une volupté. J'éprouve trop souvent, à l'intérieur comme à l'extérieur, des frémissements suaves qui sont si particuliers que je ne peux les expliquer. J'aimerais mieux ne plus rien dire de ces sensations qui sont trop étranges pour que vous puissiez comprendre. Il y a là un grand mystère. Et comme pour les convulsionnaires, il y a des pages et des pages et des pages et des pages de description de cette nature. Alors, il a également observé les stigmates. C'était vraiment l'époque du scientisme et du positivisme le plus dur. Elle a de temps en temps des stigmates qui apparaissent sur la pointe des pieds. La particularité du délire de Pauline Lernamotte, dite par elle-même Madeleine Lebouc, c'est que lorsqu'elle est en extase, et plus elle est inspirée, plus elle se hisse sur la pointe des pieds. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduite à l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'elle marche sur la pointe des pieds. Le premier dossier de police qui a été ouvert à son nom, elle dormait sur les bancs publics, elle était en délit de vagabondage, disons, hein, ce qu'on appelait autrefois le délit de vagabondage, et dans son premier rapport de police, elle est appelée ancienne danseuse. Forcément, elle fait des pointes, hein, elle marche que comme ça. Et elle marche sur la pointe des pieds, et lorsque l'extase est terminée, le pied, lorsqu'elle est dans un état stable, disons, ou normal, hein, s'il y a des états normaux, si on peut parler de quelqu'un qui est dans un état normal, à part notre président, bien sûr, hein, elle a le pied plat. À ce moment-là, elle a le pied qui plat. Puis plus elle s'avance vers la série des sécheresses, tentations, etc., plus le pied se relève jusqu'à être réellement sur les pointes. Et ce qu'elle veut faire, son projet, son grand projet, c'est de sauver le monde en allant de Paris à Rome, comme ça, sur la pointe des pieds. Ce que, bien entendu, comme elle est internée, personne ne la laissera faire. Elle fait également des tableaux, et Pierre Janet est très honnête, il dit, au XVe siècle, au XVIe siècle, et même jusqu'au XVIIIe siècle, cette femme aurait été béatifiée. Ça, il le dit extrêmement clairement. Alors, il y a quand même, dans un moment particulier, quelque chose que je voudrais vous lire encore. C'est encore sous la plume de Janet, qui a recueilli les propos de Madeleine, ou bien c'est écrit par Madeleine, parce que les deux se faisaient. « Ma vie s'unifie tous les jours davantage avec Dieu, abîmée, perdue dans son amour, patati patala. J'aime avec son cœur, mon maître est purifié, transformé, divinisé. Je participe à l'essence de Dieu, je suis en Dieu, je suis comme Dieu, je suis... » Ah non, ça, il ne faut pas le dire. « Mais pourquoi est-ce que je sens cela ? Je suis Dieu. » Et ça aussi, c'est la limite et le but... Ça, c'est quand même du côté des chamans, on a quelque chose qui frôle ce genre de projet, appelons ça projet, c'est que tous les mystiques sans exception finissent par éprouver la sensation qu'ils sont Dieu. On est d'abord uni à Dieu, puis on est marié à Dieu, puis on est confondu à Dieu, puis finalement on est Dieu. C'est ce qui a conduit le grand mystique musulman du 8e siècle, Al-Halaj, à Bagdad, à être crucifié. Et enduit de poids et de goudron et enflammé, parce qu'il avait simplement dit, c'est un grand soufi, il avait dit, je suis rien, Dieu c'est le vide, et je suis Dieu. Et ça a conduit à la crucifixion. Alors, la dernière chose que je voudrais vous dire, avant de vous laisser quand même un petit quart d'heure de questions, on a jusqu'à 8h30, donc on peut quand même dialoguer un peu, c'est que je me suis demandé beaucoup où étaient passés les extatiques que nous en avons. Des mises en transe, il y a les mouvements charismatiques. Mais il y a quelque chose qui m'apparaît comme propre à l'Europe, parce que je ne l'ai pas rencontré, ni en Afrique, ni enfin dans quoi des coins du monde où j'ai pu m'attarder, vivre plusieurs années. C'est quelque chose qui est un propre à l'Europe, qui a une histoire, qui a une date de naissance, et qui est une chose qui existe, je crois, toujours. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais ça existait en tout cas jusqu'à ma jeunesse, et qui est le coup de foudre. Le coup de foudre, le bon, vieux, brave coup de foudre amoureux. Hein. Pas le coup de foudre de la foudre, mais le coup de foudre amoureux. Alors, il a une date de naissance, 12e siècle. 12e siècle en Europe, c'est une épidémie soudaine et ça part de, en Europe, ça part de Tristan et Iseut et ça part de la quête du Graal, les deux couples étant mythiques, ayant les mêmes symptômes. Tristan et Iseut, couple incestueux, c'est la tante et le neveu, et c'est la femme de son roi quand même. Et Lancelot et Guenièvre, Lancelot, c'est la femme du roi, et Lancelot est un jeune homme, un tout jeune homme. Donc il y a de la transgression dans tous les coins. La date de naissance, 12e siècle, a souvent été rapprochée de, on dit très souvent ça, que le fondement du coup de foudre serait l'histoire de Mejnoun et Leïla. Très célèbre histoire d'amour arabe, très ancienne, beaucoup plus ancienne que tout cela. Mejnoun, ce que ça veut dire le fou, son véritable nom c'est, je crois, Al-Qaïs. Il est amoureux de sa cousine Leïla, et cet imbécile, il le dit. Et sa faute, c'est de le dire. Il le crie, et il le dit publiquement. Parce qu'il l'a dit publiquement, il ne peut plus l'épouser. Il est sans Leïla, il devient fou, il devient animal, il mange, il broute comme les animaux. On lui propose de revoir Leïla. Leïla, pour le guérir, se propose de le rencontrer. Il refuse de la rencontrer. Parce que s'il voyait la vraie Leïla, peut-être il l'aimerait plus autant. C'est là où les deux divergent. C'est que dans le cas de Mejnoun et Leïla, on a un fou tout seul avec son fantasme et son image de femme. Et il n'y a aucune rencontre sexuelle, jamais. Tandis que dans le coup de foudre occidental tel qu'il nous arrive au XIIe siècle, par des voies sur lesquelles il écrit beaucoup de choses et sur lesquelles rien n'est convaincant réellement sur l'origine du coup de foudre, en tout cas, ça existe toujours, ça produit toujours les mêmes symptômes, et il y a toujours un rapport sexuel. Et dans l'amour courtois, aussi, il y avait un rapport sexuel. Il était extrêmement codé, ça commençait par dormir tout nu l'un à côté de l'autre, sans toucher, et puis finalement, au bout de quelques nuits qu'on passait comme ça, il y avait quand même des concessions. Il y avait quand même une dépénétration. Pas vaginale, mais il y avait des pénétrations. Alors, tout ça, on se trouve dans les livres de poèmes d'amour courtois. Le coup de foudre, qu'est-ce que ça produit? Ça produit quelque chose qui n'est quand même pas très loin de tout ce qu'on a vu. Ça produit la suppression du sommeil, la suppression de la sensation de faim et la suppression de la fatigue. Quand c'est un vrai coup de foudre, hein, ça ne veut pas dire que c'est instantané. Contrairement à ce que dit l'expression anglaise, le first sight seeing, hein, au premier coup d'œil, non. Ça peut prendre des mois, mais lorsque c'est installé, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de sommeil, il n'y a plus de faim, il n'y a plus de soif. Il y a des dépenses financières colossales, on dépense sans compter. Il y a une coupure avec le monde réel. C'est exactement le symptôme de l'accès maniaque. Hein, c'est exactement le symptôme de la partie agitée de la bipolarité. Hein, c'est exactement cette structure-là. Et puis quand le retour au réel se produit, généralement c'est catastrophique. La plupart des mythes amoureux irrités du coup de foudre se terminent prudemment par la mort, parce que si c'est pas la mort, ça devient extrêmement, extrêmement embêtant. Il y a un très beau film. La première fois que j'ai entendu ce type d'analyse, j'avais 18 ans. C'était dans un cours de Jean Kelevich, dont je suis devenu l'assistante ensuite. J'étais maître de conférence auprès de lui. Et lui me parlait du coup de foudre. Citait toujours le même film et qui est Brève rencontre. C'est un film qu'on ne revoit plus beaucoup et qui raconte l'histoire d'un coup de foudre. Et la femme s'est racontée à la première personne par la femme. C'est un film en noir et blanc avec de grands acteurs. J'ai totalement oublié le nom du réalisateur, mais c'est également un grand réalisateur. C'est un film des années juste après-guerre. On sent l'après-guerre, on sent la pauvreté de Londres où ça se passe, on sent la misère dont je me souviens bien. Et elle est... Pour expliquer qu'elle est amoureuse, elle dit qu'elle est en transe. Elle le dit tout le temps. Et ça se termine à peu près bien. Ça se résout pas par la mort. Chacun retrouve sa chacune, c'est-à-dire que chacun des deux amoureux rentre dans son foyer. Il n'y a pas eu de consommation sexuelle, mais c'est tout juste. Et Jean Kelevich disait que c'était la meilleure explication du coup de foudre qu'on pouvait donner. Moi, je trouve qu'il aurait fallu un rapport sexuel pour que ce soit vraiment concluant. Mais enfin, bon. Il y a une chose qui est très frappante dans les héros amoureux de ce genre. Alors ça, vous trouvez ça dans la littérature, dans toute l'histoire de la littérature européenne en tout cas. Je ne sais pas si c'est universel. Je crois que c'est en tout cas très profondément européen. C'est que les couples qui sont sous le coup du coup de foudre, que ce soit par magie du philtre ou pas, ça n'a pas d'importance, ne font pas d'enfants. c'est-à-dire pour ça que la pénétration n'est pas vaginale dans, dans l'amour courtois, hein, c'est qu'il y a un refus de la procréation. De même que quand les femmes entrent en religion, il y a un refus de la procréation. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de chercher, parce que je sens bien que la pensée n'a pas été jusqu'au bout. Mais c'est là-dessus que je m'arrêterai, moi, c'est sur cet étrange refus de la procréation qui culmine avec le plus grand amour et le fait d'être rien. Voilà. On peut passer maintenant aux questions.
Bonsoir, madame.
Bonsoir, monsieur.
Non, j'avais une question. Vous avez répondu à l'avance. Comme ça, ça fait rapide. Ça va vite parce qu'on a beaucoup de temps. Ça ne sert à rien, avez-vous dit. Et pourquoi alors, donc, ça continue?
J'ai pas dit que ça servait à rien.
Enfin, que vous n'avez jamais, que vraiment les
trans... Ça ne produit pas d'enfants.
Ça... Non, enfin... ça ne guérit vraiment pas. Bon, c'est parce que les gens croient
Dans le cas des convulsionnaires, il était très frappant de voir que les gens arrivaient boiteux, goutteux, aveugles, borgnes, enfin, peu importe. Ils convulsaient sur la tombe, sur la grande dalle de pierre noire, et ils ressortaient de là et on disait, ils sont guéris.
Oui.
La convulsion était la guérison. Ils repartaient aussi malades qu'avant.
C'est parce qu'ils ont tenu comme ça. En fait, il n'y a pas guérison, puisque c'est par la mort même, quelquefois, vous avez dit comme ça.
Bah, ça veut dire que les convulsionnaires étaient de mauvais chamans, parce que ça n'avait pas guéri.
Voilà, ma question maintenant, dans le soldat colonial ivre, à votre avis, madame, vous pouvez me dire si c'est votre réflexion ou ce qu'on vous a dit.
C'est ce que j'ai vu.
Est-ce que c'était un pied de nez aux colonisateurs,
ou
bien ça faisait partie du décor? Parce que dans ces shows que vous avez racontés tous les deux, il y a beaucoup de décors, un peu pour impressionner les crédules et les imbéciles.
Il y a beaucoup de décors, toujours, vous avez raison.
Merci.
Oui, oui. Alors, écoutez, je vais vous dire, quand je vois ça, moi, je suis blanche en Afrique, avec une position officielle. Bon, je vois des filles qui deviennent Jean. D'abord, il s'appelle Jean, c'est pas un prénom Lébou, hein. C'est même pas un prénom Wolof, bref, c'est pas un prénom musulman du Sénégal, pas du tout, ni même chrétien. Il s'appelle Jean. Et c'est une fille, elle se met un képi sur la tête, elle commence à fumer cigarette sur cigarette, et elle picole. Il n'y a pas d'autre mot, je préfère employer le mot picoler, parce que quand on voit une fille se taper un litre de whisky, il n'y a pas d'autre mot que le pic. Bon, elle, bien entendu, elle titube, bien entendu, elle tombe, se relève, etc. Et ça dure. Les trans, c'est pas très long, hein, c'est les trans des neubes, c'est 4-5 minutes, parce que c'est épuisant physiquement, c'est un effort physique absolument colossal. Même ça, c'est un effort physique absolument colossal. Moi, je peux pas le voir autrement que comme un pied de nez au colonisateur. Je me déjugerais et je plaiderais comme contre mes convictions si je le voyais autrement que comme un pied de nez au colonisateur. C'est pas comme ça qu'elle le voit, elle, hein. Je l'aurais dit, mais ça, c'est un soldat colonial. On dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est juste un soldat. Ben, il s'appelle Jean, il a un képi quand même. Hein. Je les ai beaucoup fréquentées, elles étaient combien? Elles étaient 90. Je les ai pas quittées pendant 11 jours et 11 nuits. Donc, ça donne un matériel quand même pour réfléchir. Oui?
J'ai une chose à dire, c'est que hier... Il y a un film documentaire qui est sorti dans la seule salle de cinéma.
Pardon ? Je ne vous entends pas, monsieur.
Hier, il y a un film documentaire qui est sorti à Paris sur le trans pendant la musique ancestrale dans les pays du Maghreb.
J'ai vu ça, oui. Enfin, j'ai vu que c'était sorti, je n'ai pas vu le film. Hein.
Voilà, ça s'appelle Tagnavitude, je crois.
Ça s'appelle ?
Ça s'appelle Tagnavitude.
Oui.
Voilà.
Oui. Mais je crois que la transe est universelle. Je ne suis pas sûr que l'extase soit universelle, mais la transe, ça, elle existe sous des formes variées, avec des décors et des costumes variés. Elle existe avec le même contenu absolument partout. Elle est vraiment universelle. Bien entendu, il y a des trans au Maghreb. Moi, j'ai vu une fois à la Maison des Cultures du Monde, petit théâtre par rapport à celui du FI qui est très grand, une confrérie soufie en train de se balancer. Bon, avec un balancement, eux n'étaient pas en transe. Bon. Mais dans la salle, il y a une dizaine de femmes qui sont tombées en transe. C'était également des trans sauvages. Elles n'ont pas crié. Elles sont simplement tombées à la renverse avec des grands gestes des bras. Et on les a fait monter sur scène. Enfin, les soufis les ont appelées, les ont fait monter sur scène, les ont intégrées dans la rangée. elles se sont balancées et elles ont récupéré leur conscience. On sent très bien que c'est à portée de main, à portée d'esprit.
Bonsoir, je voudrais m'adresser au monsieur.
Le monsieur s'appelle Charles Stepanov.
Très bien. Je voudrais que vous reveniez un instant sur cette histoire de regard qu'il ne faut pas rencontrer, puisque si j'ai bien compris, dans le scénario, le chaman n'oublie pas la relation au collectif. Et j'ai peine à imaginer dans un scénario qui dure, je présume, assez longtemps quand même, qu'à aucun moment il n'y ait rencontre des regards. Alors s'il y a rencontre des regards, que se passe-t-il? Est-ce que c'est meurtrier et y a-t-il des solutions cathartiques?
Alors, il est vrai que c'est un des contrastes de l'action chamanique qui sont constants, que le chaman doit à la fois entrer dans une relation avec des êtres tout à fait extraordinaires, invisibles, dont il est censé être le familier, et en même temps garder le contact avec les humains qui l'entourent, avec les patients, la famille. Et donc gérer à la fois le fait de montrer, de faire sentir qu'il est loin, et en même temps rester à côté. Alors il y a le regard qui joue un rôle important dans cette affaire. Il y a en fait une alternance de moments, hein, comme vous voyez sur l'image qui est encore à l'écran. Il y a ce moment initial où le contact du regard est coupé avec l'assemblée et qui fait sentir à l'assemblée que le chaman entre dans une formule relationnelle différente, et les gens se sentent là isolés, hein, un petit peu abandonnés par leur chaman, qui se projette dans ce monde qu'il voit à travers la peau du tambour. Ensuite, effectivement, ça peut être des rituels qui durent très longtemps, surtout autrefois à l'époque de cette photo, ça pouvait durer toute une nuit, donc il y a des pauses déjà, où le chaman va s'asseoir, reprendre à boire, et ensuite reprendre, où là on revient dans une interaction normale, et il y a à nouveau des contacts, mais il y a des objets qui modifient le rapport du contact entre les yeux. C'est typiquement les coiffes en Sibérie. Vous avez des coiffes très particulières qui sont des sortes de faux masques. C'est un faux masque parce que vous avez un visage qui est représenté, qui est un visage d'esprit, d'un ancêtre, quelquefois, qui montre l'identité complexe qui est celle du chaman pendant le rituel, mais qui n'est pas un masque parce qu'il ne se superpose pas au visage du chaman lui-même. Le chaman se trouve avoir en quelque sorte deux têtes.
C'est comme les pirates d'aujourd'hui. Vous savez, les masques du pirate, c'est la même chose, même type de double face.
Oui. Là, il a son visage réel, parce qu'il est toujours lui présent comme chaman, comme spécialiste, et le visage de l'esprit. Et par moments, sa voix va se prêter à l'esprit, et par moments, il parle en son nom. Et cette alternance est très importante, et c'est une différence par rapport à la possession, par exemple, où là, le moi est totalement disqualifié, disparaît pour une durée aussi provisoire. Alors que dans le chamanisme, on est dans le dialogue, on est dans l'incertitude, on est dans une disparition provisoire du moi, mais réapparition ensuite. Et au niveau du regard, c'est très bien donné à comprendre par un élément de cette coiffe qui est la frange. Les yeux sont couverts par une petite frange qu'on retrouve depuis l'Arctique jusqu'à la Mongolie, à travers toute la Sibérie.
Sur ce point, tous les mariés hindous en Inde sont voilés de la même manière, soit par des guirlandes de jasmin, de boutons de jasmin, soit par des guirlandes de ce que nous appelons nous des guirlandes de Noël. Quand on est pauvre, c'est des guirlandes de Noël. Quand on est riche, c'est des grappes de jasmin. Mais les mariés ont le visage voilé. Ça a un point quelconque de contact ou pas? Vous y voyez quelque chose?
Il y a sûrement des contacts historiques, je ne saurais pas dire. Mais dans beaucoup de sociétés, on manipule le regard, effectivement. On a des instruments pour le faire.
Il s'agit bien du marié, pas de la mariée.
Le voile, ah oui, du marié. Oui.
Du marié, c'est le marié qui est voilé, c'est pas la mariée. Oui. La mariée, elle est tout à fait dévoilée, c'est même un des rares moments de sa vie où elle sera visible. Oui. Elle est là comme un paquet enveloppé dans son sari rouge, et c'est le marié qui est enturbané sur un étalon blanc et voilé. voilé, c'est de cette façon-là, frangé.
Oui, oui, oui. C'est un voile qui permet de voir sans être vu,
c'est ça.
De faire mettre entre parenthèses le visage, mais sans le faire disparaître totalement comme le ferait un masque, parce qu'on préserve cette ambiguïté très particulière du rituel chamanique.
Moi, j'ai une petite précision.
Pardon, excusez-moi, monsieur. Non, je vous en prie.
C'est juste une précision. Il y a une quinzaine d'années, était sorti un film qui s'appelait Atanarjuat. Je voulais savoir si c'était dans votre domaine de recherche. Atanarjuat, justement, qui
Ah, c'est le chamanisme inuit.
Oui. Inuit, d'accord.
C'est le chamanisme inuit. C'est, ça, oui. C'est un petit peu différent, le chamanisme inuit, j'ai l'impression. Hein.
Oui, oui, oui. Il y a aussi des tambours, mais dans le chamanisme inuit, on est dans un système beaucoup plus démocratique finalement, puisque la fonction du chaman n'est pas institutionnalisée dans une profession. Les tambours, c'est quelque chose de très révélateur, hein, ce rapport aux objets. Le tambour chamanique, en fait, qu'on devrait appeler plutôt tambour rituel chez les Inuits ou chez les Tchouktches en Sibérie. Chaque famille en possède un et le chaman va pouvoir emprunter celui de la famille qu'il visite quand il vient faire une cure. Alors qu'en Sibérie du Sud, où on a des hiérarchies beaucoup plus fortes, avec des costumes très impressionnants, des chamans, avec des dessins extraordinaires sur les tambours, eh bien, le contact avec le tambour est absolument interdit aux non-chamans. Non seulement les non-chamans n'en ont pas de tambour, mais même le simple contact serait suivi de mort.
Est-ce qu'autrefois, dans la chrétienté, un non-prêtre pouvait toucher le ciboire ? Est-ce qu'il n'y a pas toujours un interdit de ton contact ?
Oui, dans des objets sacrés, effectivement, qui contribuent à renforcer l'autorité du spécialiste.
Oui,
plus on
parce
a
qu'il est le seul à pouvoir.
Quelque chose qui va tendre vers la prêtrise, plus on va avoir aussi des objets qui sont réservés aux prêtres, qui définissent par différence des gens qui ne sont pas complets dans leur rapport à la divinité ou aux esprits, qui sont des profanes et qui ont besoin du spécialiste pour avoir un contact avec les entités surnaturelles.
En tout cas, le film dont vous parlez avait une particularité extrêmement précieuse. C'était le premier film créé par des Inuits et produit par un État inuit. Donc c'était très important. Ça fait date dans l'histoire du cinéma. Ça n'était pas un reportage ethnographique, c'était un film de création. Magnifique.
J'aurais une question pour Catherine Clément. Vous avez dit tout à l'heure que la transe était universelle, qu'on l'a trouvée au fond
de
toutes les cultures, mais que l'extase ne l'était pas. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin et expliquer pourquoi ?
Je ne peux pas aller beaucoup, beaucoup plus loin, parce que j'ai vraiment regardé à peu près dans tous les systèmes dans le monde entier. Il y a toujours des mises en transe qui ne s'appellent pas comme ça, hein, mais il y a toujours quelque chose qui ressemble à ça, ce que j'appelle les vacances de la vie. Je crains, je ne suis pas sûr, mais il est possible que l'extase soit liée au monothéisme. Alors vous me direz, et Ramakrishna ? Ben, d'un certain point de vue, comme il vivait au Bengale, au XIXe siècle, pas loin de Calcutta, Calcutta étant à l'époque la capitale de l'Empire britannique, je pense qu'il pouvait être contaminé par le monothéisme. Et je me demande, sans avoir la réponse, si l'extase n'est pas propre au monothéisme. Au monothéisme, au pluriel, évidemment. Mais il y a toujours, quand même, chez un mystique indien, dans les 300 millions de dieux, il faut bien en choisir un. Il a fini, après, quand il a réussi son coup, disons, avec la déesse Kali, il ne l'a plus lâché. C'est devenu sa déesse, point. Voilà. Donc c'était quasiment un monothéisme.
Cependant, dans l'extase, il y a toujours, il me semble que vous l'avez dit, cette intrication avec ce qui est de l'ordre de la sexualité.
Alors,
chez
l'extatique observé par Pierre Janet, pas de doute. Oui. Hein? Chez Sainte Thérèse d'Avila, la plupart des psychanalystes vous disent aussi pas de doute.
Oui.
Moi, je ne sais pas. Je dois dire, hein. Oui. Chez Jeanne Guyon, c'est ambigu. je n'arrive pas à dépatouiller le problème de son observation. Jeanne a été voir, on est sûr. Bien, ça fait une. Pour toutes les autres mystiques, toutes les femmes mystiques ou tous les hommes mystiques qui parlent et qui évoquent la sexualité, je serais beaucoup plus prudente que les psychanalystes. Je ne suis pas sûre qu'il y ait quoi que ce soit de sexuel, mais je n'en sais rien.
Hein? Et vous parlez...
C'est vrai dans le cas de Pauline Lamotte.
D'accord. Et vous parlez de bipolarité.
Ça, la bipolarité, la maladie bipolaire. Et le nom qu'on donne maintenant à ce qu'on appelait autrefois la psychose maniaco-dépressive.
Ce qu'on appelait la psychose maniaco-dépressive. Et le lien, moi je pensais plutôt un lien avec une manifestation d'ordre hystérique. Alors quelle est votre position ?
Eh bien non, parce qu'il y a vraiment chez tous les mystiques, alors là pour le coup c'est commun à eux tous, un cycle qui passe par un creux, enfin appelons ça une dépression, hein. Un long moment de dépression. Chez les mystiques, c'est très... les escaliers des marches sont très marqués. C'est-à-dire qu'on a le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage. Mais chez les maniaco-dépressifs ou les bipolaires, ça s'appelle dépression. D'un seul coup, c'est tout un bloc. Mmh. Et puis ça s'appelle manie, accès maniaque, ou bout de la boucle, quand on est plein d'énergie, etc. C'est tout un bloc. Il n'y a pas de nuance. Chez les mystiques, il y a ces nuances et il y a ce cycle. Donc j'en veux beaucoup à Gershom Scholem d'avoir présenté sa Bataille uniquement sous l'angle de la psychose maniaco-dépressive. Parce que ça dévalorise le personnage, qui est un personnage fabuleux.
Et par ailleurs, j'aurais aimé que vous puissiez nous parler peut-être un petit peu plus du rôle thérapeutique du chaman dans le groupe social. Je pense à un article de Claude Lévi-Strauss qui s'intitulait
Anthropologie et religion. Oui,
et qui s'intitulait Le chaman et le psychanalyste, où il montre des analogies et des différences, mais où le chaman se révèle être aussi quelqu'un qui est sensible aux symptômes.
Alors c'est un chaman d'Amérique centrale qui aide à accoucher. Une parturiente en grande difficulté parce que l'enfant, je crois, se présente par le siège.
Oui.
Et on n'est pas arrivé à le retourner manuellement et il faut le faire descendre par la voie normale. Alors le chaman chante un chant qui métaphoriquement reproduit l'acte sexuel, la procréation, la conception, la fécondation, puis la sortie de l'enfant. Et c'est comme ça qu'avec ce chant... Mais il y a aussi des fumigations, c'est pour ça que je suis toujours très prudente sur les problèmes des substances, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que ces fumigations, mais elles y sont en tout cas. Donc il y a quelque chose qui est répandu dans l'air, et Lévi-Strauss décrit ce rite. Puis il compare avec la psychanalyse. Alors ça, c'était vraiment à l'aube des rapports entre psychanalyse et anthropologie, hein. C'était en 1952 ou 3, chose comme ça. Et donc, là, si je me souviens bien, les différences sont que le chaman parle... Et que dans la psychanalyse, le patient parle.
Il parle.
Voilà. Le public est silencieux, le psychanalyste est silencieux. Mmh. Et que dans tous les cas, la thérapeutique agit par la parole. Pour résumer très rapidement, parce que c'est à peu près ça. Hein,
c'est l'idée, dans le chamanisme Kuna, que le chaman va constituer un scénario avec des figures mythiques collectives, des monstres auxquels la parturiente...
Des monstres avec un chapeau qui ressemble à un sexe masculin.
Voilà, la parturiente va pouvoir identifier sa souffrance personnelle, indicible, dans sa singularité, à des formes collectives, données... un sens à ce qui ne faisait aucun sens. Alors, il y a eu des recherches notamment de l'anthropologue Carlo Sévry, qui est spécialiste du chamanisme des Kuna, qui a montré, à partir d'enquêtes de terrain, et l'observation de terrain est toujours très utile, que...
Oui, parce que Lévi-Strauss, ce n'était pas une enquête de son terrain, lui. Hein.
Non, il a très peu de terrain, mais c'était à partir de chants collectés auprès de chamans. Mais indépendamment des questions de la façon dont, comment concrètement ça se passe. Hein, donc souvent, les chants ont été collectés auprès de chamans en dehors du rituel, parce que pendant le rituel, c'est très difficile de le noter. Alors, on se rend compte, en voyant comment réellement le chant est utilisé dans le rituel, que les patients, a fortiori une parturiente, n'y comprennent rien. Donc, mystère. Cette efficacité symbolique expliquée par Lévi-Strauss implique que les patients comprennent pour qu'ils puissent s'approprier ces images.
Mais pas forcément.
Alors, oui, pas, bon, il y a,
pas forcément, parce que dans la préface, oui. dans l'introduction à Sociologie et Anthropologie, qui sont ce choix d'œuvre de Marcel Mauss, mm-hmm. Il va carrément, l'efficacité symbolique agit au niveau inconscient. C'est donc pas forcément conscient. Vos chamans, ils sont entre les deux mondes.
Oui, oui. Pour finir sur l'analyse de Sévry, elle est sur un pouvoir de la parole autre que sémantique, c'est-à-dire par les sons. Simplement, dans la parole, il y a le sens qu'on fait passer d'une personne à l'autre, mais il y a aussi une matière sonore même de la parole qui peut avoir un effet,
alors, ça,
y compris dans le traitement de maladies mentales. En Occident, c'est utilisé par certains thérapeutes.
Vous parlez de la musicothérapie ?
De la voix, des cris, l'usage du cri, qui est très important dans le chamanisme aussi.
L'usage du cri, c'est un effet. Oui, moi je me souviens avoir suivi une tournée d'un type qui s'appelait Roy Hart et qui avait fondé un groupe de thérapie et de théâtre, danser et crier, qui était uniquement. C'était extraordinairement impressionnant. Je ne sais pas si c'était thérapeutique, hein, parce que c'est toujours difficile de savoir. Mais comme vous le savez, Gilbert Rouget, dans La musique et la transe, passe tout le volume à refuser cette hypothèse que la matière sonore puisse être efficace. Ce qui fait que c'est un chantier qui est ouvert, là. Hein, personne ne sait comment le terminer, ce chantier. Est-ce que la matière sonore déclenche, par exemple, est-ce que les percussions sont le déclencheur de la transe ? Gilbert Rouget dit non, c'est juste un signal. Et puis il y en a d'autres qui disent non, ça agit vraiment sur le tympan. Et ça déclenche.
Et est-ce que vous pensez que il y a réintroduction du symptôme, on va dire du patient, entre guillemets, qui est un petit peu à l'écart du groupe de par son étrangeté, réintégration dans le groupe en utilisant justement les croyances, la mythologie du groupe, et qui va permettre de donner un sens au comportement du patient, hein, entre guillemets, donc lui permettant de réintégrer le groupe en faisant participer tout l'ensemble du groupe.
Oui, il y a un aspect effectivement de hyper-relationnalité dans le rituel. Je me souviens d'un cas, c'est un éleveur qui vivait avec sa famille dans la montagne, des nomades très isolés, et puis il devenait de plus en plus prostré. Il avait des souffrances terribles au ventre, d'origine inconnue, et les gens le voyaient fondre comme ça sous leurs yeux. On l'a amené à la chamane, elle a dit « j'en veux pas, allez voir ailleurs ». Oui, oui. Donc ils l'ont envoyé à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins... Alors c'était une expédition, dans la nuit en plus, une journée de jeep, vous imaginez, dans la montagne. Il n'y a pas du tout de route goudronnée, donc c'était risqué. Il est arrivé à l'hôpital et puis il n'y avait aucun moyen de le soigner pour les médecins, c'était mystérieux. Finalement, on a porté ces nouvelles à la chamane dans la montagne, qui a, au bout d'un moment, accepté quand même de descendre au village, de faire le rituel pour lui, où elle a raconté dans son chant qu'il avait perdu son âme, qui était partie, et elle a fait le récit de la quête de cette âme vers le monde inférieur, vers une steppe jaune, différentes rivières. C'est avec des péripéties, l'âme avait oublié sa casquette à un moment, donc il a fallu faire un aller-retour pour chercher la casquette en enfer.
C'est une âme casquée.
Oui, c'est juste une casquette.
De paysan.
Oui, oui, pour se protéger, ou à la Lénine, vous voyez, c'est encore la mode en Russie. Et à son retour, à la fin du rituel, elle était totalement épuisée, la chamane. Elle avait pris en fait sur elle toute la souffrance du malade. En tout cas, elle le montrait, elle le vivait effectivement. Et lui était très allégé et s'est mis à reparler et ça allait beaucoup mieux.
Ah ouais. Oui, mais ça, c'est Mais ça, il existe. On s'arrêtera après. Après, il faut qu'on débarrasse le plancher. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Une dernière. Il existe à Fatick au Sénégal un centre qui est tout à fait génial et qui est à la fois allopathique et animiste. C'est-à-dire qu'on entre, on se fait peser, on fait tous les examens de la médecine occidentale, puis sans qu'aucun diagnostic ne soit transmis, simplement les symptômes, on transmet le patient, enfin les médecins africains, transmettent le patient aux guérisseurs, qui eux font le diagnostic et le traitement, qui est sous contrôle des allopathes. C'est absolument formidable à voir. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Et en effet, il y a des guérisseurs qui refusent. Il y a des guérisseurs qui disent ça, je m'aventure pas là-dedans. Comme m'a dit l'un d'eux, moi je suis bon pour l'hypertension, mais le cancer, je ne touche pas. Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'on devrait avoir terminé depuis longtemps.